Vous écoutez Radio Éphémère, nous sommes le samedi 5 septembre 2009. Nos programmes pour cet après-midi à 13h du sport, les résultats sportifs en direct des vestiaires et de l'infirmerie, à 15h du reggae avec Jan O'Dead et à 17h Éphémère, c'est l'antenne à Radio Booster FM sur les 89.1 MHz. Mais dans l'immédiat, voilà la conférence de presse que vous attendez tous.
Précédemment dans le supplément week-end.
Beaucoup de courts-métrages, des documentaires, des films revendicatifs et plein de choses. Mon Dieu, mais ils m'ont filé un truc de gauchiste.
Radio FMR présente. Le supplément week-end. Le magazine des cultures geeks avec du sport, Ultimatum, Das Creek et la participation exceptionnelle de JB.
Enfin. JB, on ne sait pas. Bonjour et bienvenue, c'est la saison numéro 6.
Déjà, ouais.
Émission numéro 207. Sachant que on sait que la numérotation n'est pas sûre et que dire.
Faut la baptiser cette saison.
Moi je pensais que bientôt ça va être la saison. Là il est question du retour. Non, c'est sur le bureau du après. Il est question d'un remake du Prisonnier, donc on verra bien. Hein.
Bah nous on avait pensé, comme on est dans une année de Coupe du Monde avec du sport, on aurait pu l'appeler Shoot Again cette année.
Ah oui, tiens, pourquoi pas. Dus, reviens! Oh. Non mais laisse, tout est là.
Sinon, avez-vous passé de bonnes vacances, les amis?
Oui, moi devant mon PC à bosser comme un malade.
D'accord, là c'était le geek, toi du sport.
Non, pas le geek, ou entrepreneur, andouille.
Ah bah un peu comme toi, hein, dans la forêt des Landes.
Ah, ben voilà. Est-ce que tu t'es acheté de nouvelles chemises?
Non, pas cette année, tu vois. Ah, parce bon. Qu'en fait, je pense qu'ils n'avaient pas écoulé tout le stock de l'an dernier.
Il a fait déjà vu.
C'est la crise. D'un autre côté, c'est vrai qu'on s'est pas vu depuis le 1er août et il y a eu beaucoup de choses entre temps. Bon, il y a eu le festival de Guingou.
Les cheveux longs, la vieille.
Le festival de Guingou, les 25e rencontre. La radio était partenaire. Guingou, pardon, c'était la semaine dernière. On a eu le direct en attendant le supplément. Et il y aura une partie du programme qui sera présentée à Toulouse en octobre. Donc Thomas se retrouve avec le dossier de presse pour voir ça. On a deux grosses news qui nous sont tombées sur le gras du bide. Gueule. Quelque chose d'assez impressionnant, à vrai dire. On va commencer peut-être par de la mangas, entre guillemets, si je puis dire. Puisque dans l'industrie de la bande dessinée, il y a eu deux énormes coups de tonnerre qui sont arrivés, comme ça, sans prévenir, début septembre. C'est frais cette semaine. D'abord, il y a eu la Shueisha et Shogakukan, qui sont deux immenses éditeurs japonais qui ont un actionnariat commun, qui représente un chiffre d'affaires absolument monstrueux et impensable, même pour le groupe Dargo, qui viennent de racheter l'éditeur français Kazé. Alors, c'est un éditeur vidéo, Kazé, indépendant, qui existe depuis bien 15 ans. Mais qui publie aussi des mangas papier via les éditions Azuka qu'ils ont racheté l'année dernière et distribue de la musique japonaise via le label Wasabi Records. Ce qui veut dire que les autres éditeurs français qui sont initiés dans leur catalogue, entre autres Kana, Tonkam et bien d'autres, risquent d'avoir plus de mal à négocier certaines exclusivités. C'est-à-dire que le catalogue combiné des éditeurs japonais fait rêver. Détective Conan, Ranma 1,5, Monster pour Shogakukan. Et la Shueisha édite la mythique revue Shonen Jump, où sont apparus One Piece, Naruto, Dragon Ball, Death Note, ou encore Captain Tsubasa.
Tsubasa,
ouais, voilà, tu vois, j'ai pas oublié. bref, c'est un... Jusqu'ici, les Japonais ne préféraient diffuser en licence, parce que pour eux, ils s'en fichaient un peu hein, de l'export jusque-là, excepté aux États-Unis, où ils ont racheté un distributeur local qui s'appelle Viz Comics, et justement par ces deux mêmes maisons d'édition, mais jusque là c'est bon, on va pas se fatiguer, et les éditeurs français viennent à nous. Et puis peut-être qu'ils ont commencé à rentrer dans une logique de on va faire plus de marge, on va contrôler notre marché aussi à l'export. C'est peut-être ça qui est en train de se passer. faut savoir que cette logique-là, on l'a eue aux États-Unis dans les années 70, 80, 90. Aussi bien Marvel que DC avaient commencé à racheter les filiales pour faire vivre leurs comics aussi en dehors des États-Unis. Manque de peau, ça a fait en sorte que la vente intrinsèque de comics aux États-Unis ne permettait pas aux comics eux-mêmes de vivre. C'est-à-dire que ça ne représentait que 50% des frais nécessaires à la maison Marvel ou à DC Comics dans les années 90. Marvel avait failli couler dans les années 90. Et ils se sont refait une santé grâce à l'exploitation des super-héros sur grand écran. Bon, c'est pas qu'ils avaient tenté auparavant, hein. Dans les années 70, par exemple, il y a eu un Captain America de fort belle facture. Et arrêtez de faire la soupe à la grimace. C'est vrai que c'était à chier, mais quand même pas à ce point. Mais c'est vrai que le lancement de la licence X-Men au cinéma et des 4 Fantastiques...
Ouais, le premier plutôt. Enfin, la première
franchise. X-Men avait déjà bien relancé. Les 4 Fantastiques derrière avaient assuré une belle assise.
Moi, je dirais plutôt Spider-Man qui a beaucoup plus cartonné au niveau chiffres et au niveau qualité. Hein.
Oui, mais on s'en fiche du niveau qualitatif. Ce qui est intéressant, c'est le niveau pognon, puisque là, on est dans la rubrique économique de l'oncle couille en tungstène. Bonjour Didier. Bref, tout ça pour dire que Marvel avait été allé bien au-delà de l'exploitation via Warner, si je me trompe, puisqu'ils ont monté leur propre studio. Et là, on a appris.
Warner, c'est DC, Marvel.
Je dis une bêtise, oui.
C'est
non.
La Fox, je crois.
C'est la Fox, oui. Oui, mais Warner avait déjà racheté DC depuis un sacré bout de temps. Voilà, ça m'apprendra à ne pas relire mes papiers. Espèce de salaud. Pourquoi tu m'as dit qu'il y avait Wakfu sur France 3 Bref, Marvel vient de se faire acheter par Disney. On l'a su cette semaine. Alors Disney, oh c'est Mickey, Bambi, les parcs d'attractions, mais il n'y a pas que du gentil chez eux, c'est aussi par exemple le réseau télé ABC, c'est eux qui diffusent par exemple Criminal Minds, et jusqu'à plus ample informé, à Disneyland il n'y a pas une attraction esprit criminel, donc loin de là, ils ont la chaîne sport ESPN, bon c'est vrai qu'ils ont la chaîne câblée ABC Family, ils ont des participations dans beaucoup d'autres chaînes qui sont plus orientées dans le fantastique et autres. Ils ont le studio Pixar, c'est Miramax, et c'est Buena Vista, le distributeur cinéma et éditeur vidéo. Et là, je dis stop, rewind, et on se dit, attends. Disney à Buena Vista, et Marvel venait de créer son studio cinéma. Et là, on s'est dit, ah oui, non, parce que sur le coup, on a failli avoir la vision dégradante d'un Donald déguisé en Wolverine. Non, c'est une alliance industrielle, une alliance financière. Marvel commençait à avoir suffisamment de sous pour autoproduire leurs propres films à très gros budget. Mais d'un autre côté, si jamais Marvel se plantait sur un ou deux films consécutifs, ils étaient ratiboisés. Là, il y aura un actionnaire derrière avec les reins suffisamment solides pour pouvoir soutenir derrière. Ça fait plaisir pour Joe Quesada qui, du coup, va... Je sais pas comment c'est... Je crois qu'apparemment, c'est une transaction qui s'est faite par échange d'actions. Donc peut-être que comme son comparse de Pixar, il va être au siège de la Disney Corporation. Pour le coup, on n'en sait rien. Enfin bon. Tout ça pour vous dire que, ben voilà, il y a eu deux très gros rachats dans le milieu de la bande dessinée, mais on est largement au-delà de la bande dessinée, et c'est au niveau industriel. Et les auteurs, à côté de cela, oh les auteurs... Et on continuait à produire. Et heureusement, il y a les indépendants. Par exemple, le nouveau Psychopathe numéro 121 est arrivé en kiosque, numéro de septembre, 4,50€ donc en kiosque. C'est un spécial animaux de compagnie. Alors, c'est pas aussi fort que les précédents spéciaux politiques et showbiz, mais ça vaut quand même le coup d'œil. Et non, je vous rassure, Thomas du sport, je vous rassure, je ne tiens plus à vous refourguer mes chatons. Ils ont trouvé preneur.
Ah.
Thomas, oui. tu as du hardbook.
Oui, j'ai du hardbook, mais tant qu'on est aux news et que tu comprendras oui. Pourquoi je n'en ai pas parlé dans le programme, je voudrais parler de la sortie du nouveau Saint Seiya, The Lost Canvas.
Donc, c'est le tome 7. Tu peux regarder le copyright. Bah non, c'est l'avant-dernière page.
Alors, avant-dernière page. Kurokawa, c'est quoi le que je dois regarder ?
L'éditeur japonais.
Ah bah oui, bah je me doute que ça doit être les éditeurs dont tu as parlé tout à l'heure.
Mais la mauvaise surprise, non, c'est la croix d'un chat.
Ah, bon, c'est l'autre.
Merde. D'accord.
Voilà, donc c'est la sortie du 7, puisqu'il y avait un petit essoufflement dans la série au niveau du 5, mais depuis quelques tomes, ça repart un petit peu. Avec quand même une trouvaille assez sympa, puisque.
Les armures désormais sont fluo.
Non, non,
ils
c'est
ont
en noir
monté
et
une chorégraphie sur YMCA.
Non, c'est en noir et blanc.
Sur Gengis Khan, alors ?
Non, il y a le personnage que Hadès a choisi pour se réincarner qui est peintre, et donc ça permet à Hadès de
mettre de la couleur dans les planches,
assouvir l'humanité via une toile géante qui parsème le ciel. Donc c'est assez sympa, puisque c'est inspiration un peu Michel-Ange, et une petite dose de peinture classique dedans, ça fait pas de mal, je trouve. Donc Saint Seiya The Lost Canvas, moi je trouve c'est assez sympa comme déclinaison, une tome 7 de l'histoire de Masami Kurumada et de la dessinatrice
Radio FMR rappelle que toute opinion exprimée à l'occasion de ces chroniques n'engage exclusivement que leurs énonciateurs et les chroniqueurs, et absolument pas la production.
Sinon, on parle d'artbook avec le Café Salé Shuffle tome 1 qui est consacré.
Je m'attendais à plus grand pour artbook.
Mais oui, c'est un format souple et
comics.
Papier.
Même un plus petit que comics.
Donc c'est l'éditeur, c'est Café Salé Inc. C'est la société qui a été formée par le collectif Café Salé et Ankama. Et donc ce premier tome s'est consacré au speed painting. On va rappeler ce que c'est le speed painting. C'est l'action de faire
c'est un peu le blitz aux échecs ou le 100 mètres
Oui, en fait c'est des œuvres graphiques faites en un minimum de temps. Alors effectivement ça tue. Et là tu vois l'expressivité de certains, la tablette graphique pour décrire des décors urbains ou science-fictionnesques en un minimum de traits. Par contre ce qu'on peut reprocher aussi, c'est que certains ont l'air d'être faits plus rapidement que d'autres. Et c'est vrai que cohabitent certains, compte tenu de la profusion de détails, certains peuvent être considérés comme du speed painting, mais quand même on voit qu'il y a beaucoup d'heures de boulot derrière. Donc c'est vrai qu'il aurait été peut-être bien de mettre le temps consacré à ce genre de travail.
Si vous voulez voir déjà ce que c'est que du speed painting, allez sur YouTube et tapez speed painting, et vous avez déjà de très très belles démos, c'est-à-dire qu'on voit les mecs dessiner soit sous Painter, soit sous Photoshop, soit sous Gimp, et en général c'est là où on se prend une claque, c'est de voir la vitesse à laquelle ils vont pour faire certains détails, la maîtrise graphique, et là, j'ose même pas imaginer le temps.
C'est là que tu vois que la façon de fonctionner pour faire de la matière, c'est que tu travailles déjà pas à partir d'un format d'un support blanc, mais d'un support coloré pour faire encore plus de matière. Tu as aussi des formes qui sont polygonales pour gagner du temps. Tu as la gestion de la lumière qui est absolument primordiale dans ce genre de truc. C'est là que tu vois un peu comment les recettes pour faire des dessins un peu plus travaillés. Déjà dans le speed painting, t'as tout, donc tu prends tes leçons, quoi. Si tu es graphiste toi-même.
Ouais, ben là. Enfin, moi je suis pas graphiste, c'est clair. Baf. Grosse baffe.
Voilà, on peut quand même apprécier ça si on n'est pas du tout dans le milieu. Donc, Café Salé Shuffle, tome 1, donc c'est consacré au speed painting. Le prochain qui sortira, ce sera en novembre, ce sera consacré aux nanas, aux filles. Et voilà, donc c'est édité chez Café Salé Inc.
Et on aura une rentrée littéraire extrêmement serrée,
non,
et violente.
Pas vrai.
Et il y a un truc qui marche très très facile, c'est on prend des blogs BD et on les monte en album, ou des fois on demande tout simplement à des dessinateurs de faire les blogs et hop on publie. Mais loin de là de dire qu'il suffit d'avoir un blog pour que ça soit intéressant, faut aussi être un sacré graphiste et un très bon raconteur.
Ah
et
oui.
On a d'excellentes surprises. Et notamment puisque tu étais toujours sur Café Salé.
Oui, mais justement, Café Salé, il en est aussi question dans un autre bouquin édité par Café Salink qui s'appelle Les Carnets de la Noire. C'est le tome 0 Conscient de Vacuité. Et pourquoi ce bouquin? C'est-à-dire que c'est un artiste qui a proposé à la communauté Café Salé, cafésalé.net, hein, la communauté d'artistes, de publier 10 planches par jour. 10 planches de BD sur le forum, et il voyait les retours en temps réel, et donc ça a duré 3 mois à peu près, et donc on a 300 pages d'une histoire autobiographique, puisque le tome 0 sera autobiographique, les suivants ne le seront pas, et on suit un peu le bourlingage assez édifiant.
Alors laisse-moi deviner, le narrateur est un illustrateur.
Oui, pas que, oui, mais surtout, oui.
D'accord. Sinon.
Alors, sinon.
Une blague. Le...
Donc, le gars, en fait, c'est. Le mec, il a beaucoup bourlingué. Il a souvent été ruiné, sans un sou en poche. Il a un peu vécu de petits boulots. Il s'est même associé à l'auteur Casa pour aller montrer une bande dessinée à Guy Delcourt, puisque c'était là qu'il voulait être publié et nulle part ailleurs. Guy Delcourt l'a plusieurs fois jeté en disant votre trait n'est pas assez mature. Ensuite, bon, il a pris sa claque, il a un peu lâché l'affaire. Il s'est.
Pourtant, associé à Casa en général.
Ben ouais. Après, il a fait des petits boulots en entreprise de graphisme. Comme il n'avait pas de sous pour loger quelque part, eh ben, il dormait sur son lieu de travail en essayant de faire croire à tout le monde qu'il avait bossé la nuit, qu'il n'arrivait pas à finir les projets en temps imparti. Ensuite, il a vu le film Dark Crystal. Il s'est souvenu qu'il avait vu ça, donc il s'est dit c'est ça que je veux faire, je veux aller bosser chez Jim Henson Creature Shop. Donc il est allé en Angleterre sans parler un seul mot d'anglais. Il a appelé les deux seuls amis qu'il avait là-bas, qui l'ont logé. Il a été le parasite puisque lui n'avait pas de sous. Et à un moment donné, il s'est fait plusieurs fois jeter du studio en disant non, enfin moi je veux montrer mon boulot. Non mais non, c'est bon, dégagez monsieur. Et finalement, il est allé au culot. Il a apporté son bouc et son coussin. Il a dit je attendrai le temps qu'il faudra sur votre canapé, mais je veux voir quelqu'un. Le mec du studio, il arrive furax. Il voit le bouc et là. La mine commence à se transformer. Il dit bon, mais c'est intéressant ce que vous faites. Présentez-nous un projet. Donc il a présenté le projet. Il est devenu salarié. Enfin, il est devenu bossant en freelance pour eux. Il a pu travailler avec des.
C'était un projet quel type ?
C'était un projet de film puisque justement le Jim Henson Shop voulait se diversifier et se mettre au numérique pour proposer à leurs clients de nouveaux types d'animations. Et il a rencontré un ami avec qui il a fait les 400 coups, il est allé à Los Angeles, il a fini directeur artistique pour le cinéma pendant 3 ans à Los Angeles. Il a travaillé sur des films comme Le Pacte des Loups, sur certains films inspirés de comics de super-héros comme les X-Men et Harry Potter. Et finalement, voilà, il est revenu en France et là, il a proposé ses 10 planches par jour. Alors, si vous le feuilletez, il y a de quoi être...
Je pique. Non, mais je vais le passer à du...
Il y a de quoi être un peu refroidi parce que vous dites, qu'est-ce que c'est que ce graphisme ? C'est de la photocopie, ouais, c'est de la trame avec des salles...
c'est la trame avec de l'encre
voilà.
CP, ouais.
Et bien finalement, l'histoire est passionnante. Vous voyez que à un moment donné, il raconte dans son histoire qu'à un moment donné, il se ruinait en bouquin d'auteurs qui le faisaient fantasmer comme Mike Mignola. C'est pas innocent. Vous voyez, il y a du Mignola dans les fortes zones noires qu'il y a dedans. C'est extrêmement expressif et il arrive à faire passer des cases par le texte. Tu vois ce qui est représenté, mais si t'as pas le texte, tu vois pas trop. Donc c'est semi-abstrait et je trouve l'entreprise super intéressante.
C'est pas mal en tout cas. C'est clair que là encore, ça fait partie justement de ces bouquins qui ont vraiment une histoire fabuleuse, mais dans lequel il faut rentrer dans le dessin. Oui. On avait parlé avec
Nostalgie de Dieu.
La nostalgie de Dieu, exactement, mais puis surtout le bouquin sur l'art, sur la Chine de l'ère Mao, qu'on a chroniqué récemment, qui est Une vie chinoise. Là aussi, il fallait vraiment rentrer dans le graphisme, mais c'était justement l'univers qui décrivait, quoi, qui était vraiment d'adéquation.
Voilà,
là, c'est impressionnant parce que tu dis qu'il en a fait 10 par jour.
Oui. Et quand tu vois son histoire, c'était un bourreau mais monstrueux de travail. Quand il se donne un objectif, il y va à fond. En préface, il y a Kness, donc la big boss de Café Salé, qui dit imaginez notre choc quand on a vu les 10 planches par jour. Essayez de lire les 10 planches par jour, juste 10 planches par jour, vous verrez, c'est impossible. Vous êtes pris par l'histoire et vous allez en vouloir lire 40 de suite. Imagine notre frustration quand on n'en lisait que 10 par jour. Voilà, c'est une BD à lire. Donc c'est un petit format, c'est édité chez Café Salé. Et c'est les carnets de la grenouille noire. Le tome 0 s'appelle Conscient de vacuité.
Thank you.
Dans les autobiographies en bande dessinée, il y en a une que l'on a découvert avec un immense plaisir, qui a été une claque monumentale et fabuleuse. C'était Le Fraise et Chocolat de Aurelia Orita. On vous refait un résumé très rapide.
Du cul.
Non, il y avait du sentiment.
Je rigole.
Il y avait vraiment de choses. C'est Aurelia Orita, jeune dessinatrice très talentueuse. Et qui arrive avec des traits relativement simples finalement à donner vraiment une expression formidable, est tombé en pamoison devant l'œuvre de Frédéric Boualet, ce qu'il faisait lui au Japon, et ils sont mis ensemble et la mayonnaise, je veux dire, enfin vraiment il y a quelque chose de fort qui s'est lié entre eux. Ça, il le raconte dans Fraise et Chocolat. C'était édité aux Impressions Nouvelles. Buse-moi raconte comment justement Fraise et Chocolat s'en est sorti, je veux dire, une fois arrivé en librairie.
Ah, c'est pas l'adaptation en BD du bouquin Baise-moi là. Ah pardon, je suis tout fou.
Je vous jure que ces blagues ne sont pas préécrites, contrairement à notre habitude. On l'a vu monter, on l'a vu grimper, Aurélia. Elle était venue avec Fred dans notre émission. C'est là où justement on a découvert le bouquin lors de la préparation et on s'est pris une claque monstrueuse. Et c'est vrai qu'en le refermant, on était là, on s'est dit, bah, on est très heureux pour eux, ça fait immensément plaisir. Et après cette émission, elle a eu droit à un portrait en dernière page de Libération. Fort justement entre guillemets, vous savez, Libération, c'est un quotidien français dans lequel ils font des titres en général avec des jeux de mots des fois un petit peu lourds, et là c'était bande dessinée, bande ENT. Ce portrait a ensuite vraiment lancé sa popularité, mais il y a eu aussi ses loupés. Certains grands médias, certains journalistes qu'on aurait cru plus sérieux s'en prennent sauvagement dans les dents. Il y a eu déjà des planches prépubliées dans Libération où Aurelia Orita racontait son interview avec une journaliste de Elle. Celle-ci n'avait pas lu son bouquin, mais ce qui est le plus choquant, c'est que non seulement elle essaie de rapprocher par rapport à ses propres idées alors qu'elle n'avait pas lu le bouquin, mais qu'en plus, cette journaliste avait joué de son importance. Et les coulisses du grand journal de Canal+, il y a aussi une émission d'une radio périphérique qui fait croire que tout est en direct et que les gens importants l'écoutent pour décrocher leur téléphone et intervenir en direct. Bref, on est finalement bien content d'être qu'une petite radio associative de province. On a l'impression que nos interviews ont quelque chose de plus spontané, je veux dire. Mais il y a aussi le public et les rencontres qu'elle nous partage, touchantes, attendrissantes, avec un sourd, avec un timide, avec des jeunes de banlieue et tout ça. C'est toute la difficulté de son immense popularité. Son livre était très intime, mais elle craint à tout moment de percer cette fine membrane diaphane qu'est sa personnalité. De perdre la sienne, de perdre son naturel, de perdre son âme. Car elle a écrit sans ambition, sans farce, sans tabou. Et visiblement, cela ne convient pas beaucoup les gens de les médias, comme l'écrit en un seul mot Daniel Schlederman d'Arrêt sur Image. Pour qui ne se met pas à nu, ça fait le même effet finalement qu'agiter une côte de bœuf devant un loup, ou un pitbull, ou pire, devant une hyène, là encore d'Europe 1. Si vous êtes resté à Fraise et Chocolat ou au tome 2, je ne verrai pas Okinawa nous la montrer avec une immense sensibilité, mais dans un autre registre. Alors ne manquez surtout pas le chapitre où elle répond à toutes ces questions bateau. Là déjà, on rigole bien quand on voit la gueule des questions et quand elle voit comment elle voit justement tous ceux qui l'abordent. C'est que des stéréotypes, et justement elle dit « Mais moi, je ne suis pas un stéréotype, alors ne me jugez pas comme un stéréotype. » Buzz-moi, Aurélia Orita. Une belle leçon, je veux dire, de communication. C'est aux Impressions Nouvelles et c'est... Enfin là, Thomas, il vient de feuilleter quelques pages et...
Ah oui, non, mais on lit toujours avec autant de plaisir.
Là, on naturel. Attendait le bouquin, on s'est dit, attention, on va s'en prendre plein la gueule. Peut-être que nous, on y serait dedans. J'étais déjà dans le tome 2, ça a suffi.
Regardez-moi ce type qui se croit toujours dans les BD, alors que si ça se trouve, c'est même pas toi. C'est...
On sait rien. Alors je ne sais pas si ça vous est arrivé, ben, avoir des gamins, ce qui paraît une expérience formidable. Paco est un autre graphiste qu'il a aussi fait dans l'autobiographie, mais là il a plus fait manière blague. Mae saison 1, alors le terme de saison fait plus référence aux séries télé, et oui, et pour cause, c'est enfin vous le comprendrez en le lisant. Alors c'est dans la collection Marabule, chez Marabout, avec tout le surtitre « Toutes les clés d'une éducation réussie ». Moi, j'avais franchement peur, en fait, d'avoir reçu un quelconque guide marabout, sauf que cette fois-ci, c'était illustré en bande dessinée. En général, les guides marabouts, Marabout, c'est un éditeur à qui colle une certaine réputation qui est des fois assez destructrice. Et en fait, non, pas du tout. Ça a vraiment été, je l'ai pris comme ça, j'avais envie un petit peu de lire quelque chose, un peu au soleil, pour me reposer les yeux et tout. Et je me suis pris une immense poilade. Parce que cet album, on sent les situations vécues. Et pour cause, Paco a commencé par en faire un blog BD, mae.fr, mae-bd.fr. Et Paco, c'est un geek, dans l'espèce hardcore gamer. Bon, pas franchement complètement geek et ni complètement hardcore gamer, puisqu'il vit avec sa loulou, une femme en chair, en os et en 3D. Et que non seulement ils ont trouvé le manuel de la procréation, sur internet, mais ils vont avoir un enfant. Et là, comment dire, c'est le début des emmerdes. Mae va grandir et se révéler une peste parfaitement adorable. Et on a beau être un papa cool, il faut savoir se montrer impitoyable si on ne veut pas se faire piquer sa Nintendo DS. Petite pisseuse, petite chieuse et petit bout d'amour. Un programme pour toute une vie.
Comme il dit, ne jamais hésiter à lui rappeler que la vie est injuste.
Alors je me suis fendu la poire et j'ai eu mon moment de compassion envers l'auteur et je me suis dit, alors du sport, mais quand Mika il va avoir son gosse, je serais curieux de savoir si ça va pas lui faire radicalement évoluer sa pratique des jeux vidéo.
Ah ben, sur le Calibur, il va falloir qu'il joue tard la nuit.
C'est clair. Donc, ciao, coucou Amika. Paco, Mae saison 1, c'est dans la collection Marabule chez Marabout. Et c'est un immense moment de bonheur et de fou rire garanti. Parce que vécu, c'est absolument immense. C'est quelque chose de gigantesque. Fan du sport, lui, à mon avis... Avec ses trois gamins, il va dire ouais, non, mais bon, à peu près quoi.
Non, avec ses gamins, il va dire que cette BD c'est édulcoré.
Oui, non, mais c'est à peu près ça. C'est certaines séries, t'es obligé de les regarder à partir d'une heure du matin et tu bénis d'avoir racheté tous les magnétoscopes des copains qui allaient s'en débarrasser pour les regarder nuitamment quand les gosses sont dormis. Les fauves, pardon, sont endormis. Enfin bref, que du bonheur. Mae saison 1 dans la collection Marabule chez Marabout de Paco. Ça vaut franchement le coup d'œil, sincèrement. Et merde, il est midi 30 minutes sur la poubelle des radios et on me fait savoir que tu es gentil mon cher Coco, mais tu as un truc qui doit passer exactement en pile. Merci la régie finale.
Festival Compagna, les 4 et 5 septembre sur le site de l'Estrade à Argin dans l'Ariège. Le Festival Compagna, c'est l'occasion de découvrir ces pays qui, d'une multitude d'identités, forment une aire culturelle unique. Avec le vendredi, une nuit électro au balcon, avec Pat Brapad Mujica, la Compagna Beats et Slevo Electric Club. Un samedi après-midi consacré à la journée Art Rome. et une nuit entière de concerts le samedi soir. Plus de renseignements sur le MySpace du festival, myspace.com/Compagnia Tzigane. Le festival Compagnia, du 4 au 5 septembre, à Argin dans l'Ariège, en partenariat avec Radio FMR. Du 12 au 20 septembre 2009, c'est la 22e édition du Festival de rue de Ramonville.
Hé, hey, Seigneur ! Tu veux bien payer une Mercedes-Benz ?
La thématique pour cette 22e édition, c'est un monde presque parfait. Un monde fait de bras cassés, de poètes du quotidien, que l'on qualifie bien souvent de non-productifs. D'images que nous espérons fortes, dénonciatrices ou ludiques sur ce monde rêvé parfait.
Cette bande-annonce est teintée à gauche.
Le Père Noël est en train de me chercher. Ça fait 3 ans que j'attends la livraison.
Seront présents pendant ces 8 jours de fête totalement gratuites le collectif Mix Art Miris, Voiture Colère, La Friture Moderne, Les Requins Marteaux, Béga Theater Company, Compagnie de l'Autre et tant d'autres.
Pourquoi tu existes ? Je compte sur toi !
La 22e édition du Festival de rue de Ramonville, du 12 au 20 septembre, sur les sites de Toulouse, Pouze, Labège et Bazièges. En partenariat avec Radio FMR.
C'est le supplément week-end. Et on continue les sorties bande dessinée avec quelque chose de beaucoup, beaucoup, beaucoup moins drôle. Shio Sato, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est un dessinateur japonais qui nous avait renversé par sa description de l'univers médical japonais dans Say Hello to Black Jack. Un constat terrifiant sur le travail exténuant des internes en médecine, leurs conditions, comment ils sont rémunérés, comment ils sont obligés d'enchaîner les gardes pour pouvoir ne serait-ce que payer les transports et le loyer, mais aussi comment les mentalités conformistes de la société japonaise ont influencé en mal la gestion médicale. Say Hello to Black Jack a été une série qui a eu un tel impact dans l'opinion publique de l'archipel qu'elle a inspiré une loi réglementant les conditions de travail du personnel soignant. C'est quand même rare qu'une bande dessinée ait comme ça, il initie une loi. Alors, on se dit bien que si on lisait une autre œuvre de Shio Sato, on allait se prendre encore une immense claque dans la figure. L'île des Téméraires vient d'arriver chez Big Cana, et ce one-shot raconte l'une des heures les moins glorieuses de sa nation. Lors de la fin de la Seconde Guerre mondiale, les Allemands avaient testé les bombes volantes avec des missiles rudimentaires, les V1, suivis par les V2, qui firent des nuits de feu en Angleterre. En mars 1945, les Japonais durent se rendre compte que eux aussi, ils auraient bien besoin de telles armes, mais qu'ils n'avaient pas l'avance technologique nécessaire au développement des fusées. L'état-major de l'armée japonaise décida de passer par une solution alternative, comme on dit. Faire piloter des bombes volantes par des jeunes aviateurs que l'on va sacrifier. Les kamikazes, vent divin en japonais, furent le summum du sacrifice désespéré d'une génération, décidée par des intérêts supérieurs. Il n'y eut pas que les kamikazes aériens. Dès que les Américains furent capables de bombarder l'archipel nippon, l'armée de l'empereur avait commencé à constituer un corps de marins qui allait conduire des torpilles suicides contre les porte-avions américains. Comment des ingénieurs aient pu songer à une telle ignominie? Comment des hauts gradés militaires ont pu utiliser la force de la propagande pour en faire accepter l'idée? Comment une classe d'âge entière pouvait-elle être à ce point impatiente de brûler leur vie pour l'armée impériale? Ce qui se passe dans la tête de chacun, leur motivation et surtout comment ils ont balayé leurs doutes. Leurs pensées font peur, car ces attaques suicides vont au-delà du désespoir. Ceux qui installent ces jeunes dans ces bombes commettent un acte d'exploitation humaine, un homicide au premier degré. Mais à l'époque, on appelait ça le patriotisme. La lecture en est bouleversante, et même si ce manga est relativement court, il est d'une densité émotionnelle très impressionnante. L'île des téméraires de Shiro Sato. C'est dans la collection Big Cana. Fictionnel maintenant, enfin, c'est le quatrième bouquin et enfin de la fiction, avec Christophe Beck au scénario et Ico au dessin. Ça s'appelle Ténèbres, c'est une nouvelle série qui vient de sortir chez Soleil, et le premier tome s'appelle Yonen. Alors avant, j'étais un très grand fan de la littérature médiévale fantastique. Il paraît que c'est normal quand on est ado, on est fan du Seigneur des Anneaux ou de Schwarzy en peau de bête. Dans les bandes dessinées, les premiers tomes des deux premiers tomes des Chroniques de la Lune Noire ou de la série Légendes des Contrées Oubliées m'avaient transporté dans leur imaginaire à la fois convenu. Des elfes, des nains et de la magie, et débordant d'imagination débridée, servi par des illustrations sublimes que jamais je n'aurais envisagé autrement qu'en grand format. Je me suis dit qu'une nouvelle série avec Christophe Beck au scénario, ça va cartonner. Et ben, l'immense surprise vient du dessinateur Ico, inconnu au bataillon, inconnu dans nos fiches, qui montre une maîtrise graphique impressionnante, promise à une très grande carrière. Un royaume sombra dans le malheur, Un royaume sombra dans le malheur lors d'une pluie de feu. De cette malédiction céleste, en sortit des reptiles volants qui crachèrent le feu, rendant le pays stérile et les montagnes des puits informes de lave. Une légende veut que tous les 100 ans, un chevalier arrivera seul et pourra renvoyer les dragons loin des royaumes, et que ça tombe bien parce que ça fait 100 ans qu'ils sont arrivés. L'espoir de l'humanité ne semble pourtant toujours pas avoir frappé aux portes du château royal. Mais qu'est-ce qui dit que le chevalier va arriver comme ça, adulte, d'un coup, déjà carrossé et armuré et prêt à en défourailler ? Il se trouve que ce sera dans une famille de modestes paysans. On dit qu'un jeune garçon serait capable de grands prodiges. Yoen serait-il l'élu ? Avec un E accentué majuscule. Bien au-delà du côté toujours très kitsch et peu cartésien, on se demande comment une aussi importante capitale peut être ravitaillée au sein d'une mer de feu depuis un siècle. C'est une épopée médiévale fantasy puissante, impressionnante, fort bien tenue, et voire même plutôt dark fantasy. Le souffle de l'aventure tient vraiment en haleine. Ténèbres, c'est une nouvelle série. Yonen est le premier tome. Christophe Beck est au scénario et Ico en est le très talentueux dessinateur. C'est impressionnant et c'est chez Soleil. C'était sorti bande dessinée, 12h40 sur la poubelle des radios dans le supplément week-end. À propos des news de rachat qu'on a donné tout à l'heure, j'ai oublié de dire que vous aurez plus d'informations sur actuabd.com. On mettra les liens, que les articles extrêmement documentés de la rédaction, évidemment, font beaucoup plus foi que mes propres élucubrations. La chronique cinéma vous est présentée en Dolby Stereo Surround par Thomas.
Ah, je fais le lion là.
D'accord. Pourquoi le lion ?
Ah oui, t'aurais pu faire la montagne.
MGM, ok.
T'aurais pu faire la montagne, oui. Paramount.
Et René Château Vidéo, ils font quoi, la Panthère? Il n'y a pas de bruit, là?
Non, il n'y a pas de bruit.
Bon, t'as...
Ouais, il y a aussi le...
T'as trois BD, t'as trois gros films à chroniquer.
Il y a aussi le tout corps de Marc Dorcel.
Ok. Alors, on commence par numéro 9.
On coupera au montage, comme d'hab.
C'est, on commence par un film d'animation qui est numéro 9, le film de Shane Hacker avec les voix en VO d'Elijah Wood, Jennifer Connelly, Martin Landau, Christopher Plummer, s'il vous plaît.
Martin Landau, mais il a quel âge?
Il est vieux.
Ouais.
Mais il joue dans...
Donc je rappelle que c'est l'homme aux mille faces hein, dans la série originelle de Mission Impossible.
Impossible et Cosmos 1999 et Bela Lugosi.
Dans, et voilà, il fait très bien Bela Lugosi.
Et dans The Evidence, hein, qu'on a vu il n'y a pas si longtemps voilà, que ça, fait... la rediff...
Il fait le légiste.
Ouais. Si, c'est si, ça, le, ouais.
Pas top la série. Hein.
Ah, moi j'aime bien quoi.
Ouais, bon, d'accord.
On peut y aller, ouais.
Et sinon, Fred Coppola, c'est quoi le. D'accord. Alors, dans un futur proche, la Terre a été dévastée par une guerre entre les hommes et des machines qu'ils ont eux-mêmes créées. L'un des scientifiques ayant participé.
Copie. Non, mais c'est un thème bateau, quoi.
Bah oui, tout à fait. Tu verras, ils ont pas le film de
révolution. La critique de suite. On peut sauter le résumé.
Et l'un des scientifiques ayant participé à la catastrophe a construit 9 petites créatures à partir d'objets trouvés dans la rue. Terrorisés, ces derniers se terrent dans un refuge, mais le numéro 9, tout frais, né, il se réveille là. Il est très spécial, il a été investi par le scientifique d'une mission et doit absolument convaincre le reste de la communauté d'abandonner leur cachette pour affronter la terrible machine géante qui s'est réveillée, bah justement à cause de l'intervention maladroite de numéro 9. Alors, pour décrire le monde de numéro 9 déjà, il faut bien visualiser. Alors, vous voyez le monde futuriste de Matrix avec les machines, genre pas la... contemporain, mais le monde futuriste, et vous prenez des petites créatures, et voilà, c'est ça leur monde en fait. Donc c'est super inspiré de Matrix avec les machines très noires, métalliques, avec l'œil rouge unique, et c'est vrai qu'on a pas mal de similitudes. Alors on a les mêmes mécaniques menaçantes, on a la même guerre contre les machines ayant précipité la chute des hommes, on a le même ciel obscurci, le même héros investi d'une mission. Bon, voilà, c'est ultra référencé. Bon, là ça fonctionne super bien, et il y a aussi pas mal de références aux grands films de la SF comme Metropolis, avec notamment certains films d'archives qui sont projetés à travers les yeux de deux petites créatures qui font office de projecteur cinéma. Justement des films en noir et blanc retraçant un peu les origines de la guerre, et on voit que c'est vraiment dommage à Metropolis, enfin des films expressionnistes allemands de cette époque. Et alors à l'origine de ce long métrage, il y avait un cours sur lequel le même réalisateur avait commencé à travailler dès 1990 quand il était étudiant en cinéma. Et son court-métrage, il a fait 11 minutes au final, et il a été nommé aux Oscars 2006. Et c'est à cette époque-là que Tim Burton l'a repéré. Il a dit que c'était l'un des plus grands courts-métrages qu'il ait vu. Il avait beaucoup touché techniquement et émotionnellement, donc il a voulu produire le long-métrage. Il a chargé le scénariste des Noces Funèbres de faire l'histoire, enfin d'écrire l'adaptation. Et c'est là que j'avais un petit peu peur, moi, en voyant le film, à la bande-annonce aussi. Et puis quand tu vois l'affiche, numéro 9, c'est écrit un peu avec une typo un peu vert fluo. Alors tu dis, oh non, encore du fluo, encore des frics à la Tim Burton, encore des couleurs chatoyantes pour dire, le monde des morts et le monde des... c'est trop bien, les humains c'est caca. Mais en fait pas du tout, c'est vraiment de la pure SF, la pure le post-apo à fond, pas beaucoup d'optimisme. Et franchement c'est très loin de Tim Burton. Alors c'est vrai que Tim Burton aujourd'hui, enfin moi je trouve il est devenu un peu la caricature de lui-même, malgré des Sweeney Todd qui sont vachement bien, mais depuis Ed Wood, grosso modo il a pas fait de gros films, hein. Charlie à chocolaterie, pour moi c'est une grosse daube. Les Noces Funèbres, c'est un peu un ersatz de Edouard Romain, de Monsieur Jack. Bon voilà, Tim Burton maintenant il est papa, il est rangé, il est marié à Edna Boham Carter, bon voilà, il a fait sa vie. Numéro 9, c'est une excellente surprise. Et justement, un des grands mérites du film, c'est qu'il y a le rythme et la réalisation des scènes d'action, mais c'est super, super, super efficace. Et sans révolutionner, l'histoire c'est bateau. Hein. Et ce qui a été reproché au film, c'est de se mettre en entre-deux, c'est-à-dire c'est un petit peu bateau pour des adultes et vraiment beaucoup trop sombre pour des gamins. C'est-à-dire que c'est...
pour les ados.
Pour des ados. Enfin, en tout cas, c'est un film d'animation. Il faut y aller pour les références, pour le côté super bien foutu du film techniquement, mais c'est nickel, il n'y a rien à redire. Il y a aussi un côté, bon, à la fin, ils ont voulu mettre un peu du merveilleux fantastique. Franchement, la cohabitation avec du cyberpunk SF, c'est un peu délicat. Pour moi, là, à la fin, elle est un peu ratée. Mais c'est vrai que le film, ils enchaînent. Ils n'ont pas peur de faire mourir des personnages principaux, en tout cas. Ça, je peux vous dire.
Ah, ça fait du bien.
Ah ouais, voilà, de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Donc, numéro 9, c'est encore à l'affiche, j'ai vérifié. De film de Shane Acker, un bon film d'animation. Comme on les aime bien, avec la texture, avec du rythme. Non, franchement, c'est du costaud.
Ok, ça c'est fait. Maintenant, un petit peu d'apocalypse encore.
Allez, de l'apocalypse et une bonne terreur générale. Et oui, et donc, vous allez me dire, mais c'est quoi cette merde? Bon, déjà, c'est pas de la merde, hein, c'est la musique de banda du sud-ouest. Hein, là, c'est les.
Ouais, les c'est, bandas, ta, c'est ta culture, quoi.
Les bandas de Dax.
Quoi. Voilà, on encule le football.
C'est ça. non, c'est là, on boit du Ricard et on essaie de tenir réveillé le plus longtemps possible. Alors, Les derniers jours du monde, c'est le film des frères Larieux, Arnaud et Jean-Marie, avec Mathieu Amalric, Catherine Fraud, Karine Viard, Sergi Lopez et. Je vais essayer de le prononcer. Omaira Mota, voilà. Alors, c'est la guerre, hein. Paris est frappé par des missiles, et donc Toulouse est la nouvelle capitale de la France.
Heureusement qu'on a plus d'oust.
Et donc,
faut le montrer à plaisir, ce film. Va lui faire plaisir.
Ah oui, ça c'est clair. Alors déjà la scène où on t'apprend que Toulouse est devenue la capitale, c'est alors ils sont dans le train, il dit Toulouse Matabio 39 degrés, il est 23h.
Oups. Voilà. Ça commence chaud.
Alors au milieu du chaos généralisé, Robinson couche sur le papier son histoire d'amour avec Laetitia dont il part à la recherche. Et durant son odyssée, il va faire des rencontres de tout ordre, certains tentant de survivre, d'autres attendant quelque chose et d'autres cherchant juste à baiser. Alors voilà, le mot est lancé, baiser. Je pense que c'est l'un des films qui m'a été donné de voir où il y a les personnages qui passent le plus de temps à poil. Voilà,
non, ça on laisse ça à la bande dessinée française.
Oui, c'est vrai. notamment les Borgia. Hein. C'est pas français.
Ah non, mais c'est toi qui a rapproché Besoin de Besoin. Hein.
Voilà. D'accord. Alors chaque personnage dans le couche un peu pas avec tout le monde mais tout le monde va à un moment donné à droit à sa scène de cul hein on va dire ça notamment la top modèle donc Omaira Mota qui passe tout le film quasiment toute nue juste des fois à un moment donné assis ils ont une action qui se passe dans le Canada donc elle a un bonnet mais avec un manteau. Mais sinon, le reste, elle incarne le fantasme absolu, donc elle traverse le film à poil, en fait. Bon, ça, c'est bien simple. Et donc, le film, c'est vraiment un prétexte avec, justement, ce climat nucléaire derrière et les personnages qui pensent qu'à baiser. Bon, voilà, c'est la métaphore. Bon, les gens, les mecs, les personnages, en tout cas, ils ont tous un truc à régler avec leur vie. Ils ont passé à côté de quelque chose. Ils ont toujours rêvé de faire quelque chose qu'ils n'ont pas osé faire. Bon, voilà, c'est le gros prétexte. Justement, il reste finalement, quand il y a la fin du monde, il ne reste plus que les corps et les gens qui s'amusent. Donc ça, c'est le gros prétexte. Alors, justement, les personnages, ils font des actes privés de conséquences. Hein, du coup, donc, on a des orgies dans des châteaux, un rapport sexuel entre un père et une fille qu'il n'a jamais connu. On passe par des déclarations d'amour ou des fantasmes d'une femme mûre amoureuse du père de son amant. Donc, elle va réaliser son fantasme à travers le fils. Mais, dit comme ça, ça a l'air un peu cucu, mais bon, finalement, non.
C'est juste qu'on s'en gagne, quoi.
C'est de l'auteur, c'est un film d'auteur. Et parce que bon, un film français, il y a toujours une scène à poil, c'est comme dans la BD, comme tu disais. Alors, tout le monde crève sauf lui, au fur et à mesure qu'il fait son road movie, il y a tout qui pète. Mais lui, il s'en fout, il veut juste retrouver sa fantôme. Alors, on part des plages de Biarritz. Alors, c'est pour ça qu'on a mis la musique, hein, les musiques de banda. Ensuite, on va au Faria de Pampelune, où il y a tous les festaires qui sont uniquement obsédés par la feria et le climat nucléaire. Ils s'en battent les couilles, mais d'une force cosmique. Finalement, il arrive à Paris de nuit. Encore une fois, le soleil a disparu. Il dit tiens, pourtant, l'heure qu'il est, il devrait faire jour. C'est super angoissant, Paris de nuit. Il n'y a personne dans les rues et après côté casting, alors Amalric comme d'habitude il donne toujours l'impression d'avoir d'être shooté à la coque avec le regard halluciné. Il y a un regard, ce mec, Enfin, voilà, c'est peut-être l'absence de reflet qu'il a dans les yeux. Il a des yeux de noir profond. Bah, Catherine Fro.
Il pourrait faire un méchant formidable, James Bond.
Ah ouais, tiens, une idée. Catherine Fro, elle fait toujours la cruche, mais boulée, mais comme dans les films de Bakri et Jaoui, hein, avec quand t'as dit, mais voyons, ce collier c'est trop luxueux pour un chien, mais non, c'est pour toi, ma chérie. Alors elle a toujours l'air d'avoir physique une tête de mamie de 60 ans alors que ça fait 20 ans qu'elle a ce visage, enfin c'est assez rigolo. Et on en vient un peu au hic, c'est que justement ils ont choisi une actrice pour incarner le fantasme de Robinson, c'est une top modèle. Alors effectivement elle est fantomatique parce qu'elle bah, elle a aucune forme puisque c'est un top modèle, hein. Mais moi je pense que quelqu'un de plus méditerranéen, enfin au hasard, hein, ça aurait été beaucoup mieux, tu vois, avec les formes, la nana, tu te rappelles, tu vois. Bah là la nana, pour avoir un peu vu les critiques sur le net aussi, je suis pas le seul à partager cette idée. La nana, on l'oublie un peu, elle laisse un peu froid à tout le monde. Peut-être l'effet souhaité, hein, le fait qu'elle soit un peu venue d'ailleurs ou bon, qu'elle soit un peu à part. Et c'est vrai qu'au niveau sensualité, mais Karine Viard, elle l'enterre, mais d'une force, mais elle a une scène érotique, Karine Viard, vous verrez assez.
De toute façon, Karine Viard n'a pas besoin d'avoir de scène érotique pour moi.
Oui, d'ailleurs, elle les collectionne aussi, hein, d'un film à l'autre aussi. Oui, mais oui. Alors, la scène se passe dans le ministère qui a été transféré à l'hôtel de l'Opéra, place du Capitole. Donc, nos amis toulousains qui nous écoutent, ça évoquera quelque chose. Beaucoup de scènes à Toulouse. Hein, on est une radio toulousaine, donc on en fait la pub, hein, avec les allées Jean Jaurès, on les a jamais vues comme ça.
Et la rue Alsace, pareil. Hein.
Oui, la rue Alsace-Lorraine, la place du Capitole by night avec deux tirs de roquettes. Voilà, c'est bien sympa. Le film, à mon sens, réussit l'exploit de convaincre autant sur l'aspect auteur cul que l'aspect climat de fin du monde, parce que il fonctionne aussi de ce côté-là, côté anticipation SF, fonctionne super bien. T'as, à un moment donné, t'as les plages de Biarritz, tout d'un coup t'as une pluie de cendres qui arrive avec la sirène un peu à la Silent Hill qui retentit, avec bien source de stress dans le film. Franchement, en off, tu nous disais, tiens, allez voir cette merde. Eh ben, ouais, c'est pas si merdique finalement. Premier film français que je vois depuis assez longtemps au cinéma, et c'est un truc à voir. Franchement, c'est assez inhabituel. Donc, si vous voulez voir de la copulation presque ininterrompue, ben, allez voir ça, Les Derniers Jours du Monde, film très chaud. Des frères Larieux avec Mathieu Amalric, Catherine Faux et Karine Viard. Sergi Lopez, de toute façon, est absolument excellent. Et encore une fois, il est à poil lui aussi.
Et ça fera un très bon film pour TF1 le dimanche soir.
Putain.
Alors dans ce cas-là, on va mettre quelque chose pour la première partie de soirée.
Ouais. Quoique. Peut-être pas non plus, non. Inglorious Bastards. Et pas Bastards. Parce que le film, il y a...
Déjà un film.
Oui, Inglorious Bastards. Et là, c'est Inglorious Bastards. Donc, le
de
film...
De faute.
Oui.
Mais le ministère de l'Éducation nationale se fait battre.
Oh bah déjà, il a assez de problèmes à régler avec ses fautes d'orthographe dans l'OC Press. Hein. Alors, le film, c'est un film de Quentin Tarantino, bien entendu, avec... Brad Pitt, Eli Roth, Christophe Waltz, l'immense Christophe Waltz qui a été justement récompensé, mais voyez le film, c'est absolument mérité. Diane Kruger, Mélanie Laurent, Til Schweiger, Mike Myers, hein, méconnaissable, mais aussi...
Lui, il doit jouer un nazi, là.
Non. Il joue le rôle d'un officier anglais qui va mandater un gars pour s'incruster dans les lignes ennemies. Mais aussi, il y a aussi les voix de Harvey Keitel et Samuel Jackson.
Obligé, hein.
Donc, Samuel Jackson, obligé, voilà.
Et Harvey Keitel aussi.
Oui, c'est habitué de l'univers de Tarantino. Oui. Alors, dans la France occupée, les nazis chient dans leur froc, mais sa mère, car le commando de bâtards juifs américains les égouille et scalpe les survivants. Pendant ce temps, Goebbels doit présenter son nouveau court-métrage de propagande, La Fierté de la Nation, dans le cinéma d'Emmanuel, l'unique survivante du massacre de sa famille par l'odieux colonel Landa, le chasseur de juifs. Tout ce petit monde va se retrouver dans le petit cinéma, y compris le Führer lui-même. Ça va trancher, sévère. Alors voilà, vous l'aurez compris, c'est un film qui prend des libertés avec l'histoire, hein. Ça a été dit et redit un peu partout. Le film est très bavard.
Je pense c'est que là, du Tarantino, hein.
Ah ouais, mais c'est du très bavard, même pour du Tarantino. Et justement, bon, je vous rassure, il y a quand même du flingage de nazi à la batte de baseball, et du scalp en très gros plan. Donc, le côté bavard, t'as du côté jubilatoire aussi. Mais à mon sens, pas assez, parce que le côté bavard est vraiment très présent. Et le dégommage de nazi, même si tu prends ton pied, il en faudrait plus, quoi. Bon. Christoph Waltz, on en parlait, le colonel sadique nazi, qui finalement, c'est pas juste un sadique, c'est aussi un gars qui, le personnage rigolo du film carrément. Il fait en même temps les blagues, en même temps qui promet à la fin du dialogue qu'il va soit buter le gars en face ou tu vois, c'est le mal incarné mais rigolo. Alors c'est ça qui rend le personnage super intéressant. Le mec est polyglotte, alors dans le film tu l'entends parler français, allemand, italien, anglais. Une blague avec un dialogue en italien. Quand on sait que Tarantino est fan de cinéma italien, là on entend du Morricone. Le dialogue en italien est à se pisser dessus de rire, puisqu'à un moment donné, il y a les trois zigotos, donc Brad Pitt, Eli Roth et un troisième larron qui se font passer pour des italiens. Et ouais, on parle un peu italien, allez, c'est bon. Et en fait, il se trouve que le colonel, il parle italien lui aussi, donc il leur sort un truc en italien et eux, avec les belles têtes d'abrutis. Ah, grazie. Alors, vous appelez comment? Malgaretti. Encore? Malgaretti. Ah non, ouais, je vais apprendre l'accent. Malgaretti. Et c'est un dialogue qui se poursuit, mais en longueur. Mais tu te marres, parce qu'en plus, Malgaretti, c'est un réalisateur italien de série B. Ouais. Tous les noms dedans, t'as des références à la toque, tous les noms allemands, les noms italiens, ça renvoie à des personnages de films de série B des années 40, des années... Voilà, c'est vertigineux tellement il y a de références. L'intro du film, ça, c'est la scène, mais à la virgule près du bon, la brute et le truand, l'apparition de la brute chez le paysan quand il mange avec lui et qu'il lui révèle à la fin qu'il est là pour le buter avec la musique. Il reprend tout, il reprend pas au dialogue près, mais à l'intonation près, à la musique près, il garde la même musique. Et ça, c'est transposé dans la France occupée par les nazis. Alors, au début, t'as du Morricone avec sa foula. Alors, au début, ça commence par du western spaghetti, ça finit en hommage géant au cinéma. Ça se passe dans un cinéma. Mais chaque dialogue, il y a une référence au cinéma. À un moment donné, ils jouent. Si vous connaissez au jeu du post-it, alors ils mettent le personnage deviné. Il y a un nazi.
Oui, c'est le qui est-ce.
Le qui est-ce, et il y a le nazi qui essaie de deviner que c'est King Kong. Il joue King Kong, donc il dit ah ouais, alors j'ai été enchaîné malgré moi dans un bateau et tout. Alors, c'est que des trucs références au cinéma de partout. C'est bourré de clins d'œil à la Tarantino. Il y a pas mal de scènes violentes, mais gore de chez gore, notamment le commando de bâtard ils scalpent les morts et ils gravent des croix nazies au couteau dans le front. T'as une scène, mais en énorme gros plan, focus sur le front, mais. On est allé avec JB, il a détourné les yeux et...
Oh, petite nature.
Voilà, un film très jubilatoire, assez bavard. Les 2h30, tu les sens quand même passer. Mais c'est vrai qu'à la fin, sans spoiler, mais je pense que vous êtes déjà au courant, disons que le film a beaucoup de liberté avec l'histoire, à tel point que ça en devient une histoire parallèle. Puisqu'il y a pas mal de personnages qui sont pas censés mourir, qui meurent quand même dedans, et dans une scène vraiment débridée, et Tarantino se fait plaisir. Une légende urbaine courue à propos du film, c'est qu'il y avait une séquence avec Maggie Cheung qui a été coupée, puisque c'était un rôle que Maggie Cheung a pris et qui devait revenir à Isabelle Huppert. Isabelle Huppert était présidente du jury à Cannes, donc ils avaient coupé la séquence pour pas la froisser. C'est pas du tout ça qui s'est passé, c'est que c'est une séquence qui a été tournée mais qui n'a pas été incluse au montage.
Pour expliquant... mettre du bonus dans les DVD.
Qui traînait trop en longueur, et la scène en elle-même qui a été supprimée justement rajoute un petit peu de mystère sur les origines d'un des personnages. Le casting est excellent, Mélanie Laurent en tête, franchement, qui est super, qui joue super bien. Brad Pitt avec un accent à couper au couteau du Tennessee.
Au cutter.
mais l'accent, mais si t'as pas les sous-titres,
bah, c'est il fait Clark Gable, hein, à
ah
fond,
ouais,
hein,
c'est clair. Fond, quoi. Et quand il se fait passer pour un Italien, il a la même tête d'abruti fini que dans le film de Farquhar Burn After Reading, avec la mâchoire inférieure qui fait. Et là, vous avez le bon abruti ricain qui se fait passer pour un Européen. Mais je vous dis que ça, voilà, au détour de certaines scènes qui sont un peu longues, vous avez toujours de la blague ou de la violence qui vous pète à la gueule. Ça reste quand même du très 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 bon. Voilà, c'est du cinéma jubilatoire en barre, donc Inglourious Basterds, un film de Tarantino avec tout le casting que je ne vais pas vous répéter ici et maintenant, et courez-y, le film bien entendu est sorti il n'y a pas longtemps, allez-y, en courant.
Première interruption musicale, ça fait une heure de parler non-stop. Primal Screams, Swastika Eyes, remixé par David Holmes. C'est le supplément week-end sur Radio FMR. La zapette sacrée est rentrée et du sport la tient fermement entre ses mains et ne va pas la laisser s'échapper. Mais avant ça, il y a du comics. Hein. Ouais. Et j'ai mis le bon fond parce que c'est un autre fond pour la télé, t'inquiète.
Ah d'accord, ok, ok. Avec pas mal de retard, exception faite du nouveau Spider-Man, le 116 donc, qui vient de sortir
chez Disney.
Depuis le début... Ah non, 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 parce qu'il est sorti donc lundi. Je l'ai chopé
juste
lundi.
Avant.
Juste avant, tu vois, juste avant. Donc il n'était pas encore Disney à fond. Donc on poursuit toujours, on suit toujours les aventures de notre Peter Parker favori. Et là, bien toujours la part belle à donc cette nouvelle héroïne qui s'appelle Jackpot, hein, qu'il a découvert aux alentours du numéro 111-112. Et il y a d'ailleurs un petit récapitulatif. Hein, il y a un petit un petit truc et tout dans les épisodes précédents et tout pour remettre un petit peu les pendules à l'heure parce que Spider-Man par ailleurs injustement pourchassé soi-disant parce que c'était le tueur aux traceurs, eh bien Spider-Man doit faire face à une nouvelle menace qui s'appelle justement Menace et qui a vraiment les traits, on peut dire, d'un nouveau Bouffon Vert, hein, parce que c'est pareil, il est sur une espèce de surf et tout, et il a les traits du Bouffon Vert sauf qu'il est gris. À part ça, bon, il n'y a pas beaucoup de différence. Mais bon, c'est pas Spider-Man qui s'en occupe, c'est plutôt Jackpot. Et Spider-Man, lui, essaye de savoir quelle est l'identité civile de Jackpot. Le problème est que, en fait, eh bien, il y a deux Jackpots. Et qu'il va savoir quelle est la vraie personne. Parce qu'il arrive à un moment à se fournir l'identité supposée de civil, l'identité civile supposée de Jackpot, et donc il va dans son appart et tout, il la mate par la fenêtre et tout. Aïe aïe aïe, quel voyeur! Rassure-toi, elle est pas à poil. Non, non, hein, ça reste quand même relativement décent, c'est normal, hein, c'est Spider-Man. Et là, eh bien, on va voir donc l'histoire qui va avoir une conclusion fatale, faut bien le dire, hein, pour une des deux Jackpots, parce que en le titre original, eh bien, c'est A Tale of Two Jackpots, l'histoire de Jackpot, mais c'est toujours parsemé des bons mots de Spider-Man. Alors c'est carrément un gimmick, hein, de toute façon, hein, chez Spider-Man maintenant, que ce soit dans sa revue propre Spider-Man ou alors dans les revues dans lesquelles il est associé, c'est-à-dire chez les Vengeurs, hein, c'est-à-dire bon, tous les autres l'envoient chier et tout, en disant bon, il y a la marque, t'es van à 3 sous, parce que bon, bah, même quand il est en train de fighter avec un super vilain, bah, il n'y a pas de problème, il trouve le moyen de sortir des vannes, de sortir des blagues. C'est très très bien foutu de toute façon, hein. C'est toujours Guggenheim au scénario, Mike McCone au dessin, donc moi j'aime bien, quoi. C'est assez simple mais quand même un petit peu fouillé et ça tient la route. Et par contre, là où j'ai pris une grosse claque dans la gueule, c'est dans l'histoire qui a un one shot et qui suit donc cette histoire de Tale of Two Jackpot et qui suit plus pas vraiment la carrière de Flash Thompson, mais qui est un petit peu un retour en arrière sur ce qu'a été Flash Thompson, mais à travers, eh bien, son histoire, alors qu'il revient de la guerre en Irak. Il est dans un lit d'hôpital et là il a la visite d'un général qui vient lui demander de raconter un petit peu sa vie parce que il va obtenir une médaille d'honneur, la médaille d'honneur du soldat. Et il faut savoir que durant la guerre en Irak et tout, enfin du moins dans la BD, il n'y a eu que 4 médailles pour l'instant qui ont été décernées depuis le début de la guerre en Irak, et lui ce sera le 5e à obtenir cette médaille d'honneur. Donc ça veut dire que c'est quand même un super hommage qui lui est rendu. Et à travers cela, eh bien, on va il va un petit peu raconter son histoire, c'est-à-dire son histoire, ce qui lui est vraiment arrivé en Irak et tout, et pourquoi il obtient cette médaille d'honneur. Qui est Flash Thompson? Eh bien, Flash Thompson, c'est quand même dans l'historique de Spider-Man dès le départ pratiquement, hein, c'est-à-dire quand Spider-Man, Peter Parker est encore au lycée, eh bien c'est le type qui est on va dire, bah, le capitaine de l'équipe de football américain. C'est celui qui se sert de Peter Parker comme souffre-douleur. Et Flash Thompson par la suite va avoir une histoire un petit peu plus compliquée parce que
Norman Osborn, alias le Bouffon Vert, croyant que c'est un très bon pote de Peter Parker, de Spider-Man, eh bien, va s'acharner un petit peu sur lui va carrément l'attacher à un camion et tout, alors que Flash Thompson, un peu bourré, une fête entre potes et tout, quoi, mais attaché contre un camion, va l'exploser contre un mur et tout. Flash Thompson va se retrouver dans le coma, une trip quand même relativement grave. Et par la suite, eh bien, Flash Thompson va devenir le pote de Peter Parker et de Spider-Man, parce que Flash Thompson connaît l'identité de Spider-Man, mais ne la délivrera jamais, quoi. Et donc l'histoire est vraiment assez rentre dedans, quoi. Il faut bien reconnaître, hein, parce que c'est une histoire de guerre, c'est une histoire qui se passe en Irak, hein, majeure partie du temps. Flash Thompson qui se retrouve embringué dans une embuscade, hein, il raconte comment il s'en est sorti et tout, quoi. C'est vraiment très très bien foutu, le dessin est excellent, magnifique, hein. Moi j'aime bien, quoi. Ça pète à fond la manette, c'est vraiment excellent, et ça tranche vraiment avec ce qu'on a l'habitude de lire dans Spider-Man, où c'est bon, plus ou moins joyeux, plus ou moins toute proportion gardée, bien entendu. En tout cas, c'est vraiment à conseiller. Et il y a également une petite histoire à la fin, et qui va certainement faire sourire le grand amateur qu'est Xavier, de shows genre Dave Letterman, Conan O'Brien, parce que il fait intervenir un autre personne qu'en France on connaît un petit peu moins bien, c'est Steve Colbert.
Oui, qui est à la suite de sur Comedy Central et qui fait une parodie des éditos de la Fox, d'ultra droite, un peu à mon niveau, mais largement au dessus, et c'est à hurler de rire.
Et là, l'histoire est très rigolote,
c'est très courte. Hein. Ils ont fait un crossover entre John Stewart, qui fait l'émission avant le Daily Show, Conan O'Brien et Stephen Colbert, les trois ensemble.
Ouais, mais alors
gros fan de comics, hein.
Oui, justement, c'est un gros fan de comics, et on le sent bien, parce que on a l'impression que l'histoire est un petit peu un retour à l'envoyeur, quoi. C'est-à-dire, on te remercie et tout, t'as parlé de nous dans ton émission, donc y a pas de problème, on va faire un petit truc avec toi, sympa, gentil et tout.
Il reçoit à chaque fois une personnalité de l'économie ou de la politique avec qui il pose des questions qui sont à la fois très sérieuses et à la fois, franchement, d'extrêmement mauvaise foi de droite, et il a deux énormes passions, c'est le logiciel libre et les comics. Et il reçoit souvent, le mec qui a développé VLC en France qui est venu, t'as des types, mais t'hallucines, quoi, tu dis.
Non. Alors bon, il y a des trucs très marrants dans ce style où il y a un super vilain qui s'appelle Grizzly qui vient les attaquer, et là, Colbert qui dit arrête Spidey, c'est mon combat. Et Spidey qui répond mais vous êtes Stephen Colbert, ah vous faites moins réacter. limite givré en fait. Pas que des trucs, enfin c'est assez rigolo, c'est très très bien foutu, quoi. Et donc tout ça dans le Spider-Man 116 qui vient de sortir. Sinon, au revoir. Le comic box que j'ai en main est sorti il y a un peu plus d'un mois, hein, donc il y a également outre les rubriques habituelles, quoi. Alors bon, au niveau cinéma, il y a la conférence, il y a bien entendu le compte rendu du dernier Comic-Con de San Diego, où on dirait que ça commence à les dégoûter un petit peu, quoi. Que le Comic-Con, ça devient une foire internationale de goodies et de produits dérivés
et de présentation de nouvelles séries télé
et de nouveaux films.
Ils ont présenté justement numéro 6, et c'est là où ils se sont pris où la plupart des mecs ont dit c'est une claque monstrueuse.
Voilà. Numéro 9
Numéro 6. Le prisonnier.
Ah pardon.
Voilà. Bon,
super avec ces chiffres.
Une de double page sur le nouveau Iron Man, le Iron Man 2, avec un méchant qui à notre avis sera très sympathique.
Look, il fait rire, hein, on dirait.
Bah
la
oui,
série
mais justement, Z1. Mais justement, c'est Mickey Rourke, excellent.
Et puis Scarlett Johansson en veuve noire quand même.
S'il vous plaît. Avatar, bien sûr, une page. Kick-Ass également, ça c'est du ciné. Et Dylan Dog, une bande dessinée italienne, hein, qui va être adaptée par les Américains. Donc et à part ça, on a également les interviews, celle de Bill Bullingham, un mec que je connaissais pas trop et tout, mais qui a édité, qui sort deux éditions là, qui sont dans les rayons, dans les kiosques de vos magazines de vos magasins de BD favorites, c'est-à-dire Jack et Jack of Fable, et qui en fait prend les personnages des contes, genre Peter Pan, le méchant loup après la grand-mère, mais c'est-à-dire savoir ce qu'ils vont faire après, et donc prend un petit peu le contre-pied des histoires qu'on a l'habitude de nous conter et tout. Par exemple, pour lui, Peter Pan, c'est lui le méchant, quoi. Et en fait, Capitaine Crochet, c'est lui qui cherche à ramener les enfants, quoi. Parce que bon, Peter Pan, ce qu'il fait, c'est qu'il va chercher les enfants dans leur chambre et il les ramène sur une île soi-disant enchantée et tout. Mais en fait, il kidnappe des enfants, quoi. Tu vois, c'est un méchant, quoi. Alors que Capitaine Crochet essaye de ramener les enfants, quoi, chez leurs parents, quoi.
T'as un traitement qui en est pas loin dans le. Qui avait été fait par un Français.
Hein. Voilà. Alors bon, le gros défaut, enfin, c'est pas un défaut, mais. Comme eux sont à la source au niveau de la lecture des comics et surtout des comics Marvel et DC, il y a un certain décalage, 6 à 8 mois entre la parution américaine et la parution française. Sur la double, les 4 pages qui sont consacrées à Spider-Man dans ce mois-ci, bah, j'ai appris des trucs que j'aurais pas dû savoir, parce que bon, bah, ça m'a donné la puce à l'oreille par rapport aux comics que Spider-Man que je viens de vous citer par exemple, et à ceux qui vont suivre, tu vois. Bon, oh, c'est un petit peu dommage.
Mais tu le sais très bien, à chaque fois tu le dis.
Et oui, mais bon, bah,
trop
voilà.
Dégoûté.
Par contre, la bande, la BD inédite, c'est Spider-Man avec les Vengeurs, et là, je peux vous dire que ça cartonne un maximum, c'est vraiment excellent, hein, avec Kirkman au scénario, et Udon au studio, et Scott Herburn et Alex Chung au dessin. C'est vraiment très très bien, c'est super. Bon, ça c'est le nouveau Comic Box. Ensuite, vite fait, deux hors-série Marvel Saga, donc c'est le troisième. Les deux premiers étaient consacrés à Punisher. Bon, très bien, excellent. Le troisième à Iron Man. Et là, deux histoires en fait.
C'est l'illustration de Avi Granoff, non, en couverture.
Peut-être. J'ai pas vraiment vérifié, quoi. Peut-être. Enfin, ils se sont mis à plusieurs de toute façon pour sortir cette histoire en quatre parties, hein, mais qui là a donc une histoire complète de main de fer, donc with Iron Hands, et qui est vraiment excellente, hein, qui raconte une histoire, c'est très technologique, il y a beaucoup de nanotechnologie et de technologie presque du futur, on va dire, hein, dans ce Iron Man. Bon, ben c'est normal, hein, c'est Stark Industries de toute façon, mais par contre l'histoire est vraiment très très intéressante, hein, l'histoire de d'une bombe nucléaire qui explose dans un petit état de l'ex-Union soviétique et tout, et on va essayer de savoir qui est à l'origine, qui est ce cyberterroriste qui menace peut-être la Terre entière. C'est vraiment
non,
très bien
foutu. Terrorisme, juste défaut maintenance.
Deuxième histoire, eh bien c'est une histoire un petit peu plus rigolote et tout, mais ça raconte une histoire d'Iron Man qui doit contrer les forces de l'Hydra. Avec
prend du bon temps.
Ouais, il prend du bon temps, hein, c'est normal. Ah,
richissime.
Ouais. Bah, c'est-à-dire que bon, bah, quand il arrive à la douane de ce petit pays, hein, là, c'est Madame Hydra, la princesse Hydra, donc qui est pas mal.
Pas dégueu non plus.
Il y a aussi un fight qui est vraiment très très bien, parce que bon, bah, Iron Man qui se décide à attaquer l'Hydra dans son hôtel et tout, il sait que bon, bah, il peut pas rentrer avec son armure ni avec aucun de ses petits gadgets et tout, et en fait il rentre carrément à poil pour fighter, mais en fait il est pas à poil, il est pas tout nu, mais c'est une armure qui est si tu veux, qui épouse parfaitement toutes les formes du corps, enfin
bon, c'est indétectable au radar,
voilà, indétectable enfin, c'est vraiment excellent, quoi. C'est très très bien, donc ça c'est dans le Marvel Saga. Et il y a également un hors-série Spider-Man, mais qui là est une histoire très triste et très très glauque, il faut bien le reconnaître, hein, que j'aurais pas dû laisser entre les mains de mon enfant, quoi, mais bon, tant pis, le mal est fait. Scénarisé par Zeb Wells et dessiné par Angel Medina. Waouh, là vraiment, là je suis tombé également sur le cul, et ça raconte bien
ça
les origines
mal.
De Venom. Et là,
oui, là, on en parlait carton, hein. On vraiment... en parlait hors antenne. T'as été un petit peu surpris.
Non, c'est vraiment carton. Hein. Puis bon,
pas le mettre entre toutes les mains, c'est ça.
Graphiquement, ça pète à fond les manettes. Enfin bon, c'est
Enfin, à chaque fois, le personnage de Venom a toujours été exploité, je veux dire, dans la lignée, je veux dire, un peu Todd McFarlane.
Ouais.
Mais c'est vraiment flag, hein, là.
Ouais, mais là.
Le côté horrifique.
Là, si tu veux, cette espèce de. C'est pas vraiment un reboot, mais ça permet aux gens qui ont redémarré ou qui ont démarré la lecture de Spider-Man à se familiariser avec les super-vilains qui font partie de l'univers familier de Spider-Man. Ce qui veut dire que Venom, on le connaît également dans les Thunderbolts, mais ce n'est pas le même. Là, il s'agit bien du Venom originel, c'est-à-dire de Eddie Brock, le journaliste déchu qui, par le hasard des choses, plus ou moins, va se retrouver transformé en Venom par la grâce du symbiote qui pénètre son corps. Mais c'est très très fort, c'est très dur. Hein, vraiment, c'est pas marrant du tout, hein. Il y a pas d'humour comme dans Spider-Man c'est assez grave, mais ça vaut vraiment le coup, ne serait-ce que pour le graphisme, hein, le dessin qui est vraiment assez bien, quoi, assez incroyable de toute façon. À conseiller vraiment le Spider-Man, les origines de Venom, donc qui est sorti le mois dernier également, hein, mais bon, comme c'est un hors-série, il doit encore être en kiosque sans problème. Et c'est une histoire complète, donc
cool.
Vous n'avez pas besoin d'acheter les Spider-Man, de connaître l'histoire pour lire celle-ci, quoi. Voilà pour les comics. On parle un petit peu de télé à présent, si tu veux. Alors, documentaire pour commencer avec une émission dont on a déjà loupé les deux tiers à l'heure qu'il est. Si mes calculs sont exacts. Une émission qui a commencé à 6h du matin, qui terminera demain à 6h du matin.
C'est
la journée spéciale Arte 24h à Berlin.
Ah oui, pour la chute du mur.
À l'occasion effectivement des 20 ans
de la chute du mur. Donc 24h, on a suivi 22 Berlinois qui ont été choisis plus ou moins au hasard, qu'ils soient célèbres, pas célèbres, qu'ils aient une vie rangée ou pas rangée du tout, hein. Il y a même une histoire de toxicomane, donc qui va chercher sa dose, enfin tout le truc. On va voir ce qu'il va faire, hein. Parce que c'est filmé en temps réel, quoi. 80 équipes de tournage ont mobilisé à peu près 400 personnes. Bah ouais, il faut suivre les 22 Berlinois, donc il faut des caméras, toute la logistique pour. C'est réalisé par Volker Heise et c'est en ce moment même sur Arte. Donc vous allumez Arte, vous n'aurez pas les émissions habituelles de la journée, de la soirée. C'est jusqu'à demain matin 6h, donc sur Arte 24h à Berlin.
C'est un projet assez couillu, je crois que ça a coûté quelque chose comme 3 ou 4 millions.
Ouais, mais bon.
C'est ce qui n'est pas excessif.
C'est pas excessif, c'est vraiment de la télé originale.
Ouais, ça a été tourné donc en septembre dernier, ils ont terminé, mais vraiment dans les temps, hein, le montage.
Ouais,
hein,
ouais.
C'est quelque chose, on imagine à peine.
Je pense que ça a été dit, que ce sera dit, mais enfin bon, c'est quand même une bonne claque dans la soi-disant télé-réalité. Parce que là, vraiment, on sera dans la télé-réalité.
En tout cas, paraît que TF1 assume la vulgarité. Donc.
En tout cas, pendant l'été, je me suis pris à regarder en entier le marathon de Berlin pendant les championnats du monde d'athlétisme. C'est tellement bien commenté. Et en plus, ils avaient Walker Schendorf, le réalisateur du tambour.
Ah ouais.
Qui montrait les bâtiments de Berlin en racontant ce qui s'était passé depuis la chute du mur. C'était vachement intéressant. Du coup, ça faisait aimer le marathon finalement. À la télé, je veux dire.
autre documentaire qui sera diffusé à partir de mardi prochain sur France 2. 6 épisodes de 52 minutes à raison de 2 épisodes par soirée. Donc ça fera 3 mardis de suite. C'est Apocalypse.
Wow.
Alors si je vous dis Henri Turen, Daniel Costel, Jean-Louis Guillard, le moins connu, hein, ça va vous dire, on va remonter assez loin. En fait, ça va nous raconter avec des images documentaires, mais qui sont venues, qu'ils ont cherché un petit peu partout. Hein, il y a des sources documentaires qui viennent de 45 pays dans le monde, plus de 650 heures d'archives qui ont été disséquées comme ça et compilé pour raconter, eh bien, ce qu'a été un petit peu la Deuxième Guerre mondiale, mais vu d'absolument partout et sous des angles qu'on n'avait pas l'habitude de voir. La réalisatrice, c'est Isabelle Clark. Le commentaire, c'est Mathieu Kassovitz. Oh. Et c'est sur France 2 à partir de mardi prochain, 20h35, les deux premiers épisodes. Le premier, l'agression. Et le deuxième, l'écrasement. Et ce documentaire a déjà été acheté par NHK, la chaîne japonaise, National Geographic et bien entendu les chaînes allemandes.
Mais donc, ils ont fait d'énormes efforts de production aussi, puisqu'ils ont ils l'ont produit en HD, ce qui voulait dire restaurer les films, HD, voilà, repartir des masters, les nettoyer et tout. Donc de ce côté-là, c'est pas souvent qu'en France on a vraiment des documentaires d'exceptionnelle qualité, mais à chaque fois ça tombe sur le service public.
Ouais, bah
c'est comme, et là grosse baffe.
Oui, comme les ils ont tourné la guerre en couleur et des trucs comme ça,
hein, ouais,
des images qu'on n'avait pas l'habitude de voir. On avait l'habitude de voir la Seconde Guerre mondiale, c'est en noir et blanc. Bon d'accord, on s'en contentera. La couleur existait déjà à cette époque-là. Hein. Un autre documentaire qui peut être assez rigolo à regarder, mais c'est assez tard, donc il faudra peut-être brancher le disque dur ou les magnétoscopes. C'est sur France 3 ce soir ou cette nuit à partir de 1h25 et jusqu'à 4h55 du matin. C'est un documentaire en deux parties, mais qui avait déjà été diffusé. C'est Chirac. Première partie, le jeu.
Ah oui, mais ils l'ont diffusé sur la 2 dans Infrarouge.
Voilà, et la deuxième partie,
un petit peu télécommandé, surtout avec le passage de Sarko.
Pour ceux qui l'ont loupé,
Ils disent au zapping, Chirac est un animal, il tuera.
Le jeune loup au départ, le vieux lion par la suite.
Moi, je trouve déjà vu. Le parallèle avec Sarko est étonnant.
C'est intéressant quand même. Ouais.
Ça avait déjà été diffusé, et c'est vrai que là on comprend beaucoup mieux certaines choses, et on comprend beaucoup mieux aussi la progression de Sarkozy, qu'en fait il a appliqué exactement la même méthode. Et avec le trahison, j'ai changé. Enfin bon, excusez-moi, c'est un humour un peu privé de joke.
Allez, de la série à présent avec.
Il aurait fallu qu'il rediffuse ça pendant que les mémoires de Chirac paraîtront là en bouquin.
Oui, mais elles arrivent là.
Ah d'accord, bon, mais ok.
Ouais, je crois qu'elles sont sorties là déjà, il me semble.
Pour la rentrée littéraire, quoi, comme d'hab.
Ah bah oui, c'est vrai, oui.
Je vais voir sur Amazon si tu veux.
Non, je suis pas trop ce genre de truc. Les séries à présent avec des séries inédites ou alors des saisons inédites ou alors deux séries inédites. Tout d'abord New York Unité Spéciale, c'est déjà la saison 10. Hein, ça tient quand même vachement la route. C'est ce soir sur TF1 à 22h55, donc un épisode, le masque tombe, et ils commencent par le premier épisode de la saison 10. Ça, chapeau TF1 pour une fois. Et pour une fois, on devra pas attendre 11h30 voire minuit moins le quart pour voir l'épisode inédit de New York Unité Spéciale, parce que ce soir il y a foot, donc forcément il n'y a pas de prolongation.
France-Roumanie.
Il n'y a pas de prolongation.
En cas d'égalité.
Mais non, c'est match de poule.
De toute façon, ce qui va faire plaisir, c'est que la France va être éliminée. Oh, pardon, j'ai spoilé l'épisode de ce soir.
Sinon, une série que j'aime bien. Une série avec du bourre-pif, avec de la baston, avec des gros guns.
On l'appelle Wanted. Trinita.
Wanted, rediffusé sur M6 ce soir à partir de 22h15. Alors New York Unité Spéciale et Wanted, ce sont des moins 12, hein, c'est-à-dire que c'est quand même assez rentre-dedans et tout. Là, vous avez loupé les deux premiers épisodes qui ont été diffusés samedi dernier, avec Gary Cole, Litter Gessen, Ryan Hurst, Rashida Jones. Ça roule, c'est excellent. En particulier le premier épisode de ce soir, le gang des Coréens, à ne pas louper, parce que là vraiment ça pète de tous les côtés, c'est vraiment excellent. Et le deuxième, Descente aux Enfers, qui est un petit peu plus introspectif, parce qu'il prend plus en compte la vie personnelle de quelques membres de l'unité d'élite réunie par Gary Cole, qui lui est excellent de toute façon quoi dans cette série Wanted. Donc à voir, hein, de toute façon, si vous l'avez loupé lors des précédentes diffusions, c'est sur M6 ce soir à 22h15, après Prison Break, bien entendu.
La dernière saison,
ouais. Ce soir sur Série Club, alors ça c'est une série dont je vous avais parlé quand elle avait été diffusée la première fois sur Série Club, une série de J.J. Abrams, mais alors avec pas de monstres polaires dans la jungle, avec pas de science-fiction dedans, avec rien du tout dedans, juste la vie des gens à New York, des histoires un petit peu
d'intrigues
à tiroir, il s'agit de Six Degrees. Six Degrees, qui est une série en 13 épisodes et qui raconte la vie de plusieurs personnages qui, eh ben, par des hasards et des coïncidences, justement, les 6 degrés de séparation, c'est le titre, et c'est la thématique, eh ben, vont être amenés à un moment donné à se rencontrer, à se connaître et peut-être à s'aimer. Avec Jay Hernandez, Ruby Jerrins, Erika Christensen, Campbell Scott, qui est excellent dans cette série. Hope Davis est également excellente. Dorian Missick, de toute façon, ils sont tous bons, hein. Alors, c'est, y a pas d'effets spéciaux, y a pas de baston, si y a un petit baston, mais enfin bon, laisse tomber, quoi, c'est pas le sujet. Mais c'est vraiment très très bien. Puis bon, ça montre que J.J. Abrams, il sait tenir certaines choses et tout, et que scénaristiquement, c'est quand même un mec qui est assez fort, quoi, il faut le reconnaître, hein. C'est sur Série Club. Alors, c'est ce soir, les 2 premiers épisodes à partir de minuit 05, et mardi, 3 épisodes à 20h35, et les épisodes 3, 4 et 5. Bon, l'avantage, c'est que c'est en version originale, donc ça vaut le détour de toute façon. Jetez-y un coup d'œil, hein. Moi, j'ai trouvé ça vraiment très très bien. Six Degrees ce soir sur Série Club, ou alors mardi prochain, mais c'est préférable de commencer depuis le début, hein, parce que bon, sinon vous avez rien comprendre au bout d'un moment, malgré les précédemment dans maintenant dans toutes les séries on a l'habitude de le voir.
Bah, même chez nous, hein.
Ouais, même dans les séries françaises maintenant ils le font.
Non, je veux dire, même dans l'émission Super en week-end on a ça.
Oui, bah écoute,
c'est ça, Denisou, il en a pas eu l'idée.
Pour une fois. Alors, c'est peut-être un ovni, mais là, il va falloir être sérieusement suréquipé pour pouvoir voir cette série qui s'appelle Filhos do Carnaval. Et c'est une série brésilienne. Et là, non. C'est absolument pas de la telenovela, du tout. C'est présenté comme étant le Soprano brésilien. Alors, une série de 6 épisodes seulement, et qui raconte l'histoire d'une famille mafieuse qui va s'entre-déchirer. Donc, en 6 épisodes, c'est diffusé par Orange Ciné Novo, donc la télé Orange, à partir de ce soir, 20h40. Donc,
ce qui veut dire que seulement 25 000 personnes pourraient le regarder.
Ouais, c'est comme ça, avec entre autres Jesse Valado, Felipe Camargo, ça vaut peut-être le coup d'œil. On espère simplement que ça sera racheté par une chaîne plus regardable sur certains canaux. Filhos do Carnaval, c'est ce soir, donc à 20h40 sur Orange Ciné Novo, et marqué en bas, tourne la page. sur France 3, demain 20h35 sur France 3, qu'est-ce qu'on a l'habitude de voir?
Clint Eastwood?
Série britannique
sur France 3 demain.
Précise ta pensée. Barnaby, tout à fait. Meurtre sur le Green, les nouveaux épisodes, réalisés par Richard Holthouse, avec toujours les mêmes, hein, c'est-à-dire Jim Bergerac et toute la bande. Non, là je plaisante, quoi. John Nettles, quoi, hein, bien sûr, c'est l'inspecteur Barnaby. C'est de l'inédit, donc, c'est comme d'habitude, hein, c'est de l'excellente qualité de toute façon, quoi. Là maintenant, le personnage, au bout de 3-4 saisons, hein, bon, il faut dire que comme ce sont des téléfilms, quoi, il y a un rythme qui est un petit peu moins soutenu, il doit y avoir 3 ou 4 téléfilms par année, quoi, mais ça reste quand même
un peu comme les Maigret en France, voilà.
Non, c'est vraiment du très bon, ça se laisse vraiment très très regarder. Bon, évidemment, c'est sûr, il n'y a pas la rapidité, il n'y a pas des scènes d'action comme avec Jason Statham,
mais
c'est clair,
c'est amusant de les voir se taper sur l'épaule et tout, etc., de les voir aller après au pub et tout, boire. Au fait, c'est toi qui as tué un tel.
Non, mais c'est très bien, tout à fait.
C'est un plaisir.
C'est sur France 3, donc demain, à partir de 20h35, un Barnaby inédit. Sinon, sur Paris Première, demain également, une série australienne complètement inédite. Alors nous, on était tombés sur le cul avec cette espèce de série australienne qui passait sur France 3 le vendredi soir, tard. City Homicide, ouais, là, qui était vraiment
très, très bon.
Excellente, hein. Puis bon, on attend, parce que là c'est la fin de la saison, on se dit j'espère qu'ils auront la bonne idée d'acheter les saisons suivantes s'il y en a, hein, parce que là ça vaut vraiment le coup, c'est vraiment très très bien. Et là, bien, il s'agit d'un petit peu une série qui est un peu décalque, on va dire, mais enfin bon, je pense que c'est plutôt une coïncidence, par rapport à la série anglaise avec ta copine là, la copine de Doctor Who dans les premières saisons.
Roddy Piper.
Billy Piper.
Billy Piper, tu veux dire les journal intime d'une call girl.
Là, ça s'appelle Satisfaction. C'est australien et c'est tourné dans une maison close à Melbourne avec donc pas une héroïne principale, mais plusieurs héroïnes qui font commerce de leur corps. Mais attention, une maison close 5 étoiles quand même. Deux épisodes donc demain soir sur Paris Première à 22h45. Le premier tous en scène, le deuxième sexe, drogue et rock'n'roll avec Diana Glenn, Kirsty Morassi et Peta Sargent entre autres. Non, je vous dis les noms comme ça quoi. Dans 5 ans, comme ce seront des actrices vachement connues et qui seront
bonnes.
Qui auront un cachet de 10 millions de dollars dans un film de Hollywood et tout, pourraient dire ah ouais, mais moi je la connais depuis vachement longtemps mon gars, tu vois quoi. Sans problème. Sinon, on a sur TF1 également jeudi prochain l'excellente série Section de recherche avec ses excellents épisodes inédits de la saison 4. Xavier Deluc, Virginie Cagliari, Kamel Belghazi, qui est vraiment bien, moi je trouve quoi. Bon, Xavier Deluc, c'est Xavier Deluc, hein, y a rien à dire. De toute façon, quoi, dire que ce mec a commencé dans les Max Pécas au début des années 80, personne n'est parfait, mon gars. Eh ben là, bon, ben c'est vrai. Non, mais c'est vrai quoi.
TF1 a racheté le catalogue et les acteurs avec.
Non, les Max Pécas, c'est plutôt sur les.
Sur M6.
Ouais. Non, sur TF6, truc comme ça quoi.
Bon, enfin, la filiale commune, quoi.
Non, bah alors bon, Kamel Belghazi, un mec que moi je connaissais pas, même dans les séries françaises et tout, là, vraiment, lui, il est très bien. Vraiment très très bien. Hein. Christelle Labode, donc, dans cette section de recherche. Sinon, au niveau saison inédite, c'est la saison 6 de Cold Case qui démarre sur Canal+ à partir de jeudi prochain. 22h10, et on a également, et là c'est passé dans la case de France 2 le vendredi, c'est-à-dire la case polar entre guillemets, hein, le vendredi soir sur France 2, et là ben, c'était diffusé je crois le mardi auparavant, c'est les petits meurtres d'Agatha Christie. Mais la série française, donc tournée par Eric Woerth, ce sont des inédits.
Qui est pas mal, assez sympa.
Ouais, avec très bonne Antoine Duléry et Marius Colucci. Et là, comme personnage de La Plume empoisonnée, on a également Christophe Alévèque. Donc jetez-y un petit coup d'œil, c'est vendredi prochain.
C'est une adaptation très libre, hein, il faut le rappeler. Mais c'est une transposition dans la France de la même époque.
Oui, c'est vraiment très très bien fait.
Non, et plutôt vraiment, très bien reconstitué, c'est vraiment un bonheur.
Les Agatha Christie-ophiles ne crachent pas du tout dessus. Donc, on peut y aller, quoi, il n'y a pas de problème. Et à signaler également que bien sur Canal+ décalé, la semaine prochaine, vendredi prochain 20h45, commence la saison 7 de... 24. Jack Bauer is
avec
back.
Une bande annonce qui est assez hilarante d'ailleurs. Ouais. Faites pas l'équipe de Canal en détournement. Je sais pas si tu l'as vu.
Non, j'ai pas vu.
En fait, c'est oui, non, mais en fait, je t'ai quitté et tout. Et en fait, un chant contre chant avec une actrice française qui donne la réplique à Jack Bauer, qui est plus ou moins bien doublé. Et c'est fait manière sitcom. Enfin, tu te croirais dans
Plus belle la vie.
D'accord. Hier, il y avait la reprise des inédits de NCIS. Bon, il en passe qu'un. Alors parce que il y a eu le premier de la saison.
Moi, je me suis fait planter là parce que j'ai regardé la fin du premier et puis
dommage.
Tu regardes le début du deuxième précédemment dans et puis tu dis mais attends,
mais
plus,
ils sont dans l'ordre
mêmes,
là.
Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis le 1 de la saison 6, ensuite le 1 et le 2 de la saison 5 et le 1 épisode de la saison 3 après.
Ouais, parce que tu te dis, mais attends, mais Hope Davis, normalement, elle est plus dedans et tout, et puis là, tu la revois et tout, alors qu'est-ce qui se passe? Non, pas Hope Davis.
Lorraine Olly.
Lorraine Olly, voilà. Quoi.
Mais elle s'est fait dégommer. Noto, chacun sa chance.
Elle s'est fait dégommer dans la saison 5, oui.
Ouais, elle se fait dégommer, tu te dis, mais attends, mais là, elle est de nouveau de retour, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce bordel?
On va faire une rubrique, le quarté dans l'ordre.
Non, mais bon, ok, hein, voilà. Bon,
non, mais je propose qu'on le fasse, la rubrique, le quarté dans l'ordre. On donnera les numéros de saison et les numéros d'épisode et on publiera. Merci.
Ouais.
Bien
des,
leur gueule,
des,
hein.
Films, des films à présent. Et puis bon, je me suis pas trop laissé aller. Alors ça va rester du normal avec ce soir.
13h39, je te rappelle ta reprise de foot. Hein.
Un seul film sur RTL9 ce soir à 20h35. Le pont de Remagen de John Guillermin en 69 avec George Segal, Robert Vaughn, Ben Gazzara. Excellent, excellent film de guerre, hein, de toute façon, quoi. En plus, ça bouge pas, hein, ça, tout se passe autour d'un pont, le pont qu'il faut prendre, le pont qu'il faut défendre. Voilà, point. Sinon, on peut pas pénétrer en Allemagne, on peut pas continuer de l'invasion et tout. De très bons acteurs, hein, Georges Segal, Robert Vaughn, Ben Gazzara. Non, ça vaut le coup, c'est vraiment très très bien. Demain sur Direct 8 à 20h40, un singe en hiver de Verneuil en 62, avec la première classique rencontre entre Gabin et Belmondo. Il y a également Suzanne Flon, Paul Francoeur, Noël Roquevert.
Et surtout direct, cette superbe ligne de dialogue. Et qu'est-ce qu'il y a là-haut? Les vicieux disent que c'est un restaurant et les gourmets disent que c'est un bordel.
Ouais, entre autres, hein, parce que les dialogues sont d'Audiard et
c'est très très haut niveau.
C'est tiré du bouquin d'Antoine Blondin, quoi. Donc c'est un monument, ce film, quoi. C'est à voir, hein, c'est excellent.
Et la ligne suivante de dialogue, donc, puisque maintenant je m'en souviens, c'est et sinon c'est quoi? Bah vaut mieux pour nous que ça soit fermé.
Ouais, parce que ça a un rapport avec l'alcoolisme du personnage principal, en fait.
Voilà, qui est un peu délaissé et qui vit dans la rue. D'ailleurs, les deux vivent dans la rue.
Sur TCM demain soir également, Tobruk Commando pour l'Enfer de Arthur Hiller en 67 avec Rock Hudson, George Peppard, Nigel Green, Guy Stockwell, où c'est un commando britannique de juifs qui sont chargés de dynamiter les réserves d'essence des Allemands à Tobruk. Mais c'est très bien, ça se laisse agréablement
regarder. Ça se laisse 128e fois regarder.
Ouais, sans problème. Lundi, pour la 203e fois sur RTL9 à 20h35, Commando de Marc Lester avec Arnold, Ray Don Chong, Alyssa Milano,
toujours pas de version multilingue sur RTL9 Commando, vous le passez en VO, le bruit des armes est largement plus fort.
Ouais. Et c'est suivi par ils nous font la soirée bien burnée, quoi, quand même bien burnée. D'abord Commando et ensuite La Chair et le Sang de Verhoeven.
Ah ouais. Donc,
ah oui.
Il y a pas de problème. Bon, justement, on regrette qu'il y ait pas de version originale, quoi, sur RTL9, parce que sinon ça se regarde très très bien. Sinon, lundi, on a également un des grands classiques du cinéma, hein, je dis ça pour les petits jeunes là qui connaissent pas les films en noir et blanc, À bout de souffle de Godard en 59 avec Belmondo et Seberg, et c'est sur TV5 Monde.
C'est
lundi,
quoi, dégueulasse,
soir à 21h. Ouais, au moins quelques qui suivent quand même, quoi. Sur Ciné Cinéma Club, toujours lundi à 20h40, Tueur d'élite de Peckinpah avec James Caan, Robert Duvall et Bo Hawkins, et sur la chaîne Action à 20h40, toujours lundi prochain, la 36e chambre de Shaolin, Lu Xialang avec Gordon Liu, Lo Lie, Wang Yi. Enfin bon, laisse tomber, c'est du bon là. C'est
vous prenez des pizzas, vous regardez les trois à la suite, voilà. C'est kiff total.
Ouais, excellent.
Des pizzas
mardi sur Sci-Fi à 23h15. Alors ça, c'est un petit big up, un petit salut à TGS. SS Doom Trooper de David Flores en 2006 avec dans le rôle principal Corinne Nemec, également
et
Ben
Cross, qui
sera
donc à Toulouse, donc au TGS.
Voilà, Ben Cross, on lui posera des questions. Alors regardez ce film et après au TGS vous irez poser vos questions à Corinne Nemec sur sa participation à ce film.
Je crois que t'es le seul à avoir cette chaîne. Ouais.
Pourquoi as-tu joué dans un film où des militaires vont chasser du ptérodactyle?
T'avais des problèmes avec des lézards?
Et du T-Rex. Bon, d'accord. Alors donc, profitez-en, quoi. Hein, c'est mardi prochain, SS Doom Trooper à 23h15 sur Sci-Fi. Mais il y a également une petite curiosité sur TCM, mardi prochain à 20h45, Les 7 voleurs de Chicago, un film de Gordon Douglas en 64, avec la participation presque complète du Rat Pack, c'est-à-dire Sinatra, Dean Martin, Sammy Davis Jr. et Peter Falk. Quand je dis en 64, Peter Falk,
il a pas encore
deux yeux.
Il n'avait pas encore.
Eh ouais. Et sinon, un film.
Je me suis tapé. Alors là, tu vas me haïr, mais sur Mezzo, il y avait pratiquement tout le Rat Pack pour un spécial de Frank Sinatra pour le retour de Leslie de l'armée en 1960. Et putain, mais Sammy Davis Jr. qui fait toutes ces imitations, ça on les connaissait pratiquement pas.
Toi, tu ne les connaissais pas.
Ah, mais c'est grandiose. ça vaut le coup. Même sur un mauvais télécinéma.
Non, mais bon, il faut voir aussi Sammy Davis avec Nat King Cole faire l'imitation en direct devant Nat King Cole de Nat King Cole.
Cole et l'autre
chanter
qui arrive.
Nat King Cole,
c'est grandiose.
L'autre qui éclate de rire et tout, explosé. Enfin bon. Ça vaut le coup. Sinon, en redevenant sérieux un petit peu, mardi prochain sur Orange Cinéchoc, un film qui a fait la joie et le bonheur de Thomas quand il l'a vu pour la première fois, Memories of Murder, et dont il se sert encore en référence de temps en temps, de Bong Joon-ho avec
je crois que tu parlais de
Song Kang-ho et King Sang-kun. Ouais, j'y suis arrivé. Cool,
le film
cool.
Qui laisse un arrière-goût dans la bouche.
Voilà, c'est sur Orange Cinéchoc mardi prochain, 20h40. Sinon, mercredi, c'est la soirée des daubes qu'on adore regarder.
Ah bah ouais, mercredi.
Tout d'abord, un petit masterpiece pour vous mettre l'eau à la bouche. Hot Boys sur NT1 20h35.
Master P, c'est un rappeur.
C'est un rappeur et alors là, il a embauché absolument tous ceux qui étaient dans sa maison de disques, c'est-à-dire Silk, Snoop Dogg, Master P bien sûr, parce que bon, bah il met en scène, mais il faut qu'il soit dedans aussi. Même si généralement il se fait dégommer au début, comme ça lui permet de rester derrière la caméra après. Et bien entendu, un acteur qu'on a l'impression qu'il est passé sous licence avec Master P, l'énorme Gary Buzet bien sûr. Hot Boys donc c'est sur NT1 mardi prochain à 20h35 et sur Sci-Fi mercredi prochain, c'est mercredi hein, Hot Boys mercredi prochain à 22h40, Mutant à tour aquatique en liberté de Sean Cunningham.
Ça va faire mal,
ça faisait longtemps hein. Ouais, ouais.
Ça manquait un petit peu au programme là.
Ouais. Avec Taurine Black donc, Nancy Everhart et Greg Evigan, un film dont même JB n'a pas dit de mal hein, parce qu'il s'est laissé je crois que c'est lui qui m'a dit oui mais j'ai quand même regardé une fois puis c'est vrai que c'est pas trop mal, c'est pas trop de la daube et tout. Ok, il y a pas de problème.
Ouais, comme quoi il y a des séquelles hein, quand on est le loueur de VHS, au bout d'un moment, t'as les séquelles.
Eh ben ouais, bah, écoute, hein, on en connaît d'autres qui sont devenus célèbres. Hein.
Oui, on en a parlé tout à l'heure.
Orange, ciné géant, mercredi prochain à 20h40, Une corde pour te pendre. C'est un western de Raoul Walsh en 51 avec Kirk Douglas et Virginia Mayo. Mais bon, vraiment très bien. Hein, excellent, hein, l'histoire d'une famille qui veut se venger et qui va harceler notre famille et tout. Quoi. Mais bon, c'est très bon hein, avec Kirk Douglas. Qui était pas encore cubéni à l'époque et tout là vraiment vraiment bien quoi de toute façon. Sinon jeudi on a sur TMC à 20h40 Zoolander de Ben et avec Ben Stiller, mais alors avec une bonne bande de ses potes Owen Wilson, Will Ferrell et du côté parce que ça se passe dans le monde du mannequinat, il y a Christine Taylor et Mila Jovovich et également David Duchovny. Donc il y a pas de problème regardez, de toute façon c'est un Ben Stiller, il y a pas de problème. Sur TFC jeudi prochain à 20h40, un film où il y avait un petit jeune comme ça qu'on connaissait pas du tout et tout, mais qui allait devenir assez célèbre et qu'on allait tourner une suite de ce film. C'est Pitch Black de David Truby avec Vin Diesel, Cole Hauser, Radha Mitchell, Keith David et Claudia Black qu'on a vu par la suite ou qu'on a vu, je crois, c'était en même temps dans Farscape.
Farscape, c'est ça.
Ok, vendredi on termine avec sur RTL9 à 20h35 Attaque sur le mur de l'Atlantique de Paul Van Kotz avec Lloyd Bridges, le papa de Jeff et de Beau et de des autres, Andrew Keir, Sue Lloyd et Mark Eden sur Paris Première à 22h45. Ça c'est à ne pas louper. Le crime farfait de Alex de la Iglesia avec Guillermo Toledo, Monique Cervera et Luis Varela entre autres. Mais là jubilatoire, hein, Alex de la Iglesia. Il
paraît
de problème,
que
hein.
Farfait ça vient de l'astérisque quand les Guerriers de César.
Ouais. Mm. Exactement, t'as tout compris et t'as bien lu.
Et un ravage de l'alcool.
Sur TCM, vendredi prochain à 20h45, La fugue d'Arthur Penn avec Gene Hackman, Melanie Griffith en 75, putain, yes. James Woods en 72.
Elle avait encore un physique potable alors.
Ben non, là elle était mannequin, c'est-à-dire qu'elle n'était pas actrice mais elle était mannequin et donc comme elle était plus ou moins dans la bande des gens à Hollywood, puisque bon, elle traînait déjà un petit peu dans ce monde-là, et on a dit tiens, ben il nous faut une nana à la plastique jeune et tout, hop, on va la prendre, on va voir ce qu'elle veut. Et puis bon, ça le fait quand même pas mal quoi, avec James Wood également et Susan Clarke donc. Et pour terminer, eh bien sur Disney Cinemagic, vendredi prochain à 20h30, Tron de Steven Lisberger avec le fils de Lloyd, Jeff. Bruce Boxleitner, David Warner
Et bientôt la suite logique.
Et bientôt le Tron 2, donc.
Tron Legacy.
Tron Legacy, ouais.
Qui est, non, mais qui ne fait pas rire, hein, qui est lui aussi très impressionnant. Donc on verra ce que donnera le scénar. Enfin bon.
Ok, ben voilà, bah c'est tout. Hein,
Thomas, s'il te plaît, tu sais, il y a des distraits, ils arrivent comme ça, en plein milieu, une recherche sur Google, ils arrivent en plein milieu d'une émission, ou des fois ils zappent sur leur radio, il y en a qui étaient occupés, qui étaient aux toilettes.
Ah mais oui, pas de chance pour eux, mais par contre on pense à eux et on peut faire le procès verbal de l'émission cette fois-ci qui est un peu soft, hein, j'ai pas tout noté.
Alors il y avait de la matière.
Voilà, on a eu du multi-rachat au prix du neuf, du graphisme qui tue, une dessinatrice buzzée, du post-apocalyptique sombre, de l'apocalyptique débridé, de l'apocalypse nazi alternatif, on a eu de l'Iron Man à poil et un Venom qui fait pas rire, des Berlinois, un Peter Falk avec deux yeux et des troncs.
Non d'un spidermique, ils ont manqué tout ça. Heureusement, grâce à la diffusion différée, vous pouvez réécouter l'intégralité de cette émission et aussi retrouver les chroniques écrites. Fouillez dans vos archives, jouez à des quiz stupides, laissez vos commentaires, posez vos questions, n'hésitez pas, il s'allait fille d'aller sur le site web supplémentweekend.fr, sans accent ni tiré, supplémentweekend.fr. Vous écoutez FMR sur 89.1 MHz, nous sommes en direct et en alternance avec Booster FM, et on continue sur www.radio-fmr.net. Nous sommes la saison 6 du Supplément Weekend, désormais officiellement notre émission aura lieu de midi à 13h30, et du sport prend le programme à partir de 13h30, sauf que là, il est 13h51, et donc on peut déjà dire que dans le prochain épisode, les passagers du vent reviennent après plus de 25 ans d'absence. Nous on se retrouve la semaine prochaine, ciao, bye bye, plus...
Et le planning, il va pour tu sais qui.